Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 44e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez l'édition spéciale Les mecs que je veux ken sur France Inter. D'où l'invité du jour, le trop craquant Tom Villa. Comme pour Vizorek, j'enregistre cette intro avant d'avoir écouté notre discussion. Sinon, je vais trop vous spoiler et il vaut mieux que vous ayez une oreille neuve. La seule chose, si je me souviens bien, on a enregistré cet épisode en novembre et Tom Villa était venu chez moi à Bagnolet et c'était super sympa. Mais quand il est parti, je me suis dit peut-être que c'est l'invité de tous ceux que j'ai reçus qui veut le moins me ken. Voilà, depuis le début, il y avait 0,0 ambiguïté sexuelle. Et c'est intéressant aussi, c'est intéressant de discuter avec des hommes en couple et d'analyser leur discours en fonction du moment, si c'est le début, si c'est pas encore officiel ou si ça fait des années. Là, avec Tom, on est dans le moment crucial de l'engagement, genre ça doit faire... Mais il le dit d'ailleurs, je crois, dans l'épisode. Peut-être 2-3 ans qu'il est avec sa meuf. Et ils se sont fiancés et ils vont se marier. Mais là encore, je vous spoil. Donc je dis plus rien sur Tom. Je vous laisse le découvrir à travers notre discussion. Et vous, sinon, je vous ai même pas demandé si ça va. Vous pouvez pas vraiment me répondre, mais enfin, si vous le faites quand même souvent, en DM sur Insta, vous me donnez vos impressions, vous me conseillez même des livres. Faut que j'achète absolument celui de Maya Mazoret, Sortir du trou, vous me l'avez rappelé. Merci. Merci également pour vos gentils commentaires sur Apple Podcast. Celui de Onizuka Kombi, super podcast, drôle et sincère, Rosa n'a pas son pareil pour mettre les pieds dans le plat, et c'est pour ça qu'on l'aime. J'ai adoré ce commentaire, et oui, c'est vrai que parfois ma curiosité maladive me pousse à mettre limite mal à l'aise mon invité. Ça me fait culpabiliser parfois, j'espère que je n'extorque pas non plus trop de confidences. Je repense souvent à l'épisode avec Laura Domange dans la Winter Edition avec les meufs, et je suis très reconnaissante pour ce qu'elle a partagé d'intime à ce point. J'espère qu'elle ne se sent pas volée. Et si tu m'écoutes, Laura, je te remercie encore, et je t'aime, et je t'admire, et tu me fais trop rire. Un autre commentaire qui m'a vraiment fait trop plaisir, c'est celui de Kako42. La pudeur n'a pas sa place dans ce podcast cru, honnête et très drôle. Rien de plus normal de la part de la Sarah Silverman française. 5 étoiles. Waouh ! Je peux mourir. Je sais que je dois être moins sensible à la flatterie parce que sinon je vais être inévitablement peinée par les retours négatifs, mais non. Peut-être moins. Je crois que j'évolue là-dessus, ça me dérange moins d'agacer certaines personnes. Je comprends, tout à fait, je m'en fous parce que, en fait, je suis persuadée que c'est souvent pile ce qui agace certains, et bien c'est pile ça qui plaît à d'autres, donc bon, voilà. Être soi, ça veut rien dire, mais être comparé à ceux que l'on admire, ça veut dire quelque chose. Et oui, Sarah Silverman est vraiment la femme que j'admire le plus au monde actuellement. Que vous dire d'autre pour conclure cette intro? J'ai vu un documentaire sur Netflix, La sagesse des pieuvres, The Octopus Teacher, incroyable, très très beau, hyper poétique et émouvant, je vous le recommande. Ça m'a donné envie d'adopter une pieuvre, d'avoir une pieuvre de compagnie. Enfin, la semaine dernière, il a neigé dans le Morbihan et mon île était recouverte de neige. C'est franchement l'un des plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. J'ai pris plein de photos, j'étais totalement éblouie par la beauté de l'île enneigée. Ça m'a procuré beaucoup de bonheur et je continue à écrire. C'est toujours des doutes, des joies, mais je crois que le mélange me va. Et j'apprécie particulièrement la joie que procure l'écriture parce qu'elle est moins intense que celle de la scène. Résultat, on n'a pas de descente derrière, tout paraît pas fade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une drogue bien plus douce, bien moins dangereuse. Voilà, je vous aime, merci d'écouter mon podcast et bonne écoute dans les bras du talentueux Tom Villa. C'est pas joli.
Non, mais c'est les pâtisseries, je sais pas de quel pays c'est, mais c'est un plat de pâtisserie en Finlande, en Suède, tu sens que c'est un peu comme ça.
Ouais, voilà.
C'est bon, hein. Est-ce que toi, il y a un truc en particulier que tu veux, genre, pas parler ou...
Moi, non. Non, moi, je...
On peut parler de ta maladie, le sida, tu vis avec.
Depuis 2 ans, écoute. Et je le répète, les singes, vraiment pas bon délire. Hein. C'est vraiment...
Ouais. Oui, parce qu'on parle beaucoup du pangolin, mais on dit pas qu'il faut pas faire l'amour avec des singes.
On ne le dit pas assez.
Et t'as pas encore fait de vidéo là-dessus.
C'est vrai. Donc non, on parle de tout ce dont tu as envie.
Cool.
Avec grand plaisir.
Ça marche.
Donc là, par exemple, là, ouais. ça tourne, on mange et tout.
Ouais, j'avoue, les bruits de bouche, ça sera un peu relou pour les gens, mais j'essaierai de baisser le son.
Non, mais...
Et puis pour les auditeurs qui nous écoutent, voilà, je m'excuse, mais c'est vrai qu'avec Tom, on prend le petit-déj.
Oui.
Et je suis allée acheter de la babka.
Oui.
Patrice.
C'est très bon.
Voilà. Et donc, on s'en met...
plein les poils.
Voilà. Et Minou vient de nous rejoindre. Minou, ce que je te propose, c'est d'aller sur ton petit promontoire là. Comme ça, tu me fous la paix. Et regarde, t'as une super première place au chaud. Ça va lui mettre du temps avant de...
Oh, on fait chier, putain.
Bah, il veut pas qu'on lui impose quoi que ce soit. C'est pas sa décision de départ.
Bah oui.
Donc, y a l'ego qui entre en jeu, quoi. Non, ouais, c'est mort.
C'est perdu. Ok. J'ai 2 chats, donc je suis pas surpris.
Ah ouais, t'es pas sûr, ouais. Avec ta cousine, vous avez 2 chats ?
2 chats, ouais.
Waouh, comment ça s'est passé ? Vous avez d'abord eu un et ensuite vous avez voulu lui prendre un partenaire, un copain ?
Moi, j'avais une chatte avec mon ex qui s'appelle Iris, la chatte. Hein.
Palex.
Hein ?
Palex.
Non, l'ex ne s'appelle pas Iris. Donc voilà, donc c'est moi qui avais gardé le chat.
Ok, lors de la séparation, vous avez...
Exactement.
Ok.
Et puis ma copine, elle adore les animaux, donc elle était trop contente qu'il y ait un chat. Et puis effectivement, vu que des fois avec nos métiers on n'est pas toujours là et tout, on sentait que le chat parfois pouvait s'ennuyer un peu. Ou même quand on partait en vacances, tu vois, de laisser un chat tout seul pendant 15 jours. Alors on prend une cat-sitter, tu vois, qui vient régulièrement la journée pour lui donner à manger, s'en occuper et tout. Mais c'est vrai que du coup, on s'est dit, bah tiens, au moins, ça fait une deuxième présence. Donc, on a pris un petit chat il y a 1 an et demi.
Et ils s'entendent bien tous les deux ?
Alors oui, les débuts, elle lui a un peu gueulé dessus.
Ouais.
Mais non, très cool. Non, très, très cool. Attends, est-ce que j'ai...
Et ta copine n'a pas eu de soucis à bien s'entendre avec le chat que t'avais avec ton ex ?
Non.
Non, c'est vrai ?
Non, mais regarde, tiens, ça, c'était hier soir. Regarde la position du chat. Et on ne l'a pas mis comme ça. Il s'est mis, après, pas tout de suite, mais... C'est en rocking chair, quoi.
Comme un adulte.
Mais comme un homme. Et ce chat est incroyable, il s'appelle Woody.
Il est immense.
Ouais, il est là.
C'est ta copine ?
Ouais.
Ah, c'est marrant, elle fait très italienne ou genre libanaise
Et pas du tout, oui, mais
ah
pas
ouais
du tout. Tiens, regarde, là, c'est les deux. Qu'est-ce que je lui ai dit ?
Waouh. Et pour vous, c'est un entraînement pour quand vous aurez des enfants. Hein.
Exactement. Non, oui, non, le chat est ouf. On lui parle, il nous répond. Enfin, c'est vraiment, il joue. En fait, c'est presque un petit chien. On l'appelle, il vient et tout.
Oui. Minou, c'est un chien. Enfin, il a plein de. Il est un peu dépendant affectif, quoi.
C'est vrai ?
Bah, surtout l'hiver, parce qu'en fait, je pense que je suis une bouillotte géante et ambulante pour lui, quoi. Donc, il vient tout le temps me coller. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est... Je trouve que les chats, c'est pas mal dans un couple.
Ouais.
Parce que ça permet d'avoir un doudou auquel tu peux faire des câlins.
Ouais.
Et que ça permet de pas faire trop de câlins au partenaire. Parce que le câlin peut tuer le câlin dans le couple. Si tu fais trop de câlins, ensuite, au moment de baiser, t'es là. Bah, on fait quoi ? On fait un câlin ou... Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, il faut bien, je trouve, garder le contact. Juste...
je te laisse. Tu vois ce que... Je t'écoute pleinement. En même temps, je cherche... Mais
je sais qu'avec un ex, on se faisait trop de câlins, trop de bi-bi-bi-bi-bi-bi, et que résultat, à la fin, on n'avait juste plus du tout. Bah, je sais pas, on prend des voix de bébé, des machins, des trucs, et le problème, c'est que ça casse un peu, je sais pas.
Ouais, c'est pas, non, mais c'est pas totalement faux.
Bon, en même temps, je sais pas. Est-ce qu'en même temps, t'as envie d'être en couple avec quelqu'un dont pour qui t'as une folle attirance sexuelle? Je pense que c'est pas tenable quand même à la toute fin de la fin de. T'imagines? Tu rentres chez toi, tu fais du gueux, t'as envie de regarder Netflix, et là, il y a ton partenaire, et à chaque fois, il t'attire sexuellement, incroyablement. C'est trop, quoi. Ça... Non ?
Donc, t'es en train de conseiller aux gens de vraiment prendre des gens avec qui vous n'avez pas envie de baiser. Ce sera des super compagnons de vie.
Non, mais t'imagines, c'est intenable si t'es trop attiré sexuellement par ton partenaire, tout le temps.
Ouais. C'est pas faux. C'est pas... Oui. Pff, là, la réponse de merde. Oui.
T'es en train de te dire, ok, ma meuf va écouter le podcast, qu'est-ce que je réponds ?
C'est ça, exactement ça.
Je sais.
Ça t'est arrivé déjà 32 fois.
Eh oui.
Non, mais oui, dans
c'est
un...
C'est la différence entre les mecs maqués et les mecs célibataires. Les mecs célibataires, leur réponse, c'est « Ah non, je rigole, moi, je veux une meuf que je puisse ken du matin au soir, etc. » Et les mecs maqués, c'est là. Non, mais elle est à la fois attirante sexuellement et en même temps intellectuellement, c'est un vrai plaisir.
Mais non, mais c'est vrai.
Chérie, je ne te réduis pas à un objet sexuel, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai toujours envie de faire l'amour avec toi comme au premier jour.
Non, mais c'est compliqué, là, de trouver la bonne personne.
Ouais.
Enfin, de la trouver, de... Moi, le côté quête, recherche, j'y crois pas trop, en fait. Il y a un moment où tu la croises et tu te dis, bah ouais, là, c'est cool, c'est pas comme avant, quoi. Je trouve, mais c'est perso. Mais,
ton ex, avec qui vous aviez la chatte en commun ?
Oui, bah là, on parle purement animalier, on va pas...
Ça fait combien de temps que vous êtes séparés ?
Quatre, cinq ans.
Ah ouais, ça va, quand même, ça fait longtemps.
Oui.
Et c'est toi qui es parti ?
Non, c'est elle.
Ah merde !
C'est elle, mais en vrai, j'avais pas eu le courage d'arrêter le truc avant.
C'était une relation très longue, ça faisait longtemps que vous étiez ensemble ?
2-3 ans.
Ah ouais, non, normal.
Ouais.
Ah ouais. Donc, moi, je m'imaginais que t'étais pas. Genre, que Tom Villa, c'est toujours Tom Villa qui largue. C'est pas. Tu sais, jamais Tom Villa qui se fait larguer.
Non, non, Tom Villa, il est comme. Jean-Claude Van Damme.
Tom Villa, il se fait larguer.
Non, ouais, non, il est comme tous les hommes, il est pas très courageux, donc comme beaucoup d'hommes, il est pas très courageux, donc des fois il perd du temps. Et voilà.
D'accord. Et donc en même temps, ça a dû être frustrant pour elle. Si t'imagines, tu largues quelqu'un qui l'a. Bah ouais, j'avoue, hein, j'aurais dû y penser aussi.
Non, mais ça s'est pas passé comme ça. Ça se passe jamais comme ça. Mais en gros, elle est partie pour un break et puis en fait moi j'avais pas le temps de malheureusement de m'occuper de ça, donc je me suis réfugié dans le boulot et puis en fait je suis beaucoup mieux tout seul là. Et après quand elle a essayé de revenir non en fait.
Ah putain.
Et c'est qui... T'es en train de manger du popcorn. Bah ouais. Et de...
Et c'est elle qui a regretté.
Je sais pas, mais en tout cas.
Et vous êtes toujours amis aujourd'hui?
Non, moi je suis pas. Je garde jamais contact avec mes ex.
Tu sais, j'ai l'impression que tu me fais dans le podcast comme ta vidéo, tu fais passer les cartons, tu sais.
Mais pas du tout. Pas du tout. Non, mais en vrai, je reste. Non, je reste pas. Ouais, pour moi, quand c'est fini, quoi. C'est un peu comme en amitié, je trouve. C'est,
ah ouais, ouais.
Je. Mais bon. Et toi ?
Moi, je suis restée presque 10 ans amie avec mon premier amour. Enfin, je suis restée 3 ans avec lui, mais 2 ans si tu comptes les 2 années où après on baisait plus, mais on était quand même meilleurs amis. Donc en fait, on partait en vacances, on faisait des siestes, on allait au cinéma. Enfin, on baisait pas, mais on était tout le temps fourrés l'un avec l'autre. Et en fait, après, on était dans la même bande d'amis. Donc en fait, jusqu'à il y a un an, on se voyait quand même plus ou moins tout le temps. Et jusqu'à il y a un an, on faisait quand même parfois un peu justement des petites voix ensemble où je m'asseyais sur ses genoux. Et en fait, c'était... quand même toujours, c'était pas si compliqué que ça, à vrai dire. Et puis là, non. Il y a eu une nouvelle nana qui a mis fin à ça et qui lui a dit c'est fini.
Tu le regrettes ?
C'est bizarre pour moi en fait. C'est très bizarre parce que après ce copain, il a été avec une nana, Adrienne. Et en fait, il a été au départ quand il a été avec elle, ça a été très dur pour moi parce que. On était tout le temps ensemble dans le groupe et qu'on était un couple quand même assez charismatique. Même moi,
c'est génial. Chapeau melon et bottes de cuir.
Vraiment, genre, on se déguisait, on se maquillait, on allait aux fêtes ensemble. On était très loud, tu vois. On s'engueulait devant tout le monde. Donc les gens connaissaient nos engueulades. Je balançais des trucs hyper trash de notre intimité et ça faisait rire tout le monde.
C'est avec ce même gars-là ou non c'est avec...
Non, c'est avec ce même gars-là. On était, donc il y avait un truc très carnaval. et quand Adrienne est arrivée, moi j'ai eu un petit peu de mal au début parce que je pense que Ouais, je pense que le groupe aussi, le groupe d'amis a eu du mal à se dire « Ah, donc maintenant, il est plus avec Rosa la folle. » Genre, parce qu'Adrienne est...
tu vois Rosa la folle.
Bah, Adrienne est très, très différente. Elle est un peu timide, elle est très intelligente, voire un peu introvertie peut-être, mais très en écoute. Elle va pas genre monter sur les tables, se bourrer la gueule. Je dis pas que je suis ça non plus, mais avec notre bande d'amis, si, j'étais quand même un peu... Ils ont pas forcément, le groupe a pas forcément été très accueillant et tendre avec elle, ni moi au départ. Mais elle a laissé la place. Genre, elle était là, pas de soucis en fait. Et ton amitié avec Rosa, ça a l'air d'être un personnage épatant.
Épatant, elle a dit le mot épatant.
Genre, la nana super, super ouverte et hyper sage. Et puis, au fur et à mesure, le fait est qu'elle faisait de lui un meilleur homme, quoi. Et que je me disais, bon, cette femme, est... je comprends, en fait, elle est vraiment exceptionnelle. Et puis, quand il l'a quittée, au bout de 3 ans, je lui ai dit, mais enfin, t'es fou, c'est la meilleure femme sur Terre. Elle est belle, elle est intelligente, elle est douce, elle est gentille avec tout le monde. Enfin, tu rencontreras pas quelqu'un d'aussi intelligent, aussi gentil. La plupart des gens gentils sont vraiment très bêtes, et la plupart des gens intelligents sont extrêmement pervers, je t'assure. Profite d'elle. Et puis, il l'a quand même quittée. Et donc, on s'est rencontrés avec Adrienne à ce moment-là. Bah, c'était... il y a 3 ans, finalement.
Et là, vous êtes pote avec Adrienne ?
Bah, non seulement on est devenus potes, mais on est devenus meilleurs amis, et c'est ma metteur en scène.
Mais non !
Je me suis mise au stand-up avec elle, en fait.
À cause d'elle ?
Bah, peut-être, grâce.
Mais non !
Si ? C'est génial. Parce qu'en fait, quand... Donc, moi,
donc lui, pareil. Oh, putain, il a...
Ah, bah, lui, ouais, il y a eu un petit... ça lui a fait chelou. Mais il a continué. Enfin, on avait quand même un trio, un peu, donc, au résultat, parfois, on tous les trois, on était à Avignon ensemble, et en fait, il était un peu comme... En fait, c'était un peu comme notre fils, comme si Adrienne et moi, on était un couple de lesbiennes, et qu'on avait cette espèce de grand bébé incapable. Lui, après, il cherchait, il allait de meuf en meuf, mais il était assez en souffrance. Et il y a un an, ou un peu plus, un an et demi maintenant, il a rencontré cette nouvelle nana, qui lui a dit...
fermé les robinets.
Exactement.
Terminado.
Elle a terminé le jeu, et Adrienne et Rosa, c'est out, c'est fini. Et maintenant il est
papa. Mais on peut pas.
Là il est papa.
Ah. Ouais. Et il t'envoie des messages en secret ?
Non, j'ai même pas vu son bébé.
D'accord.
Ouais.
Mais vous suivez pas sur Insta et tout, non ?
Alors c'est bizarre, moi je suis pas trop stalker. En vrai, déjà je crois qu'il met pas beaucoup de photos de son bébé. Et sur Insta, on se suit même pas. C'est pas. Est-ce qu'on se suit ? Non. Il est pas. Non, j'ai pas vu son bébé en vrai, et je me dis, mais tu sais, c'est comme dans un film de Jacques Demy, j'ai l'impression que c'est un peu les parapluies de Cherbourg. Le jour où je verrai son bébé, ça fera un peu comme la scène, tu sais, t'as vu les parapluies de Cherbourg ?
Non,
à la toute fin, il y a une scène où il voit les enfants l'un de l'autre, quoi. Oui. Sauf que moi, je verrai son enfant, et lui, il verra la solitude.
Minou ?
Ouais, Minou. Mais non.
Ah, attends, moi j'ai une question, parce que malgré tout, quand même, j'ai un peu regardé à droite à gauche. Pourquoi tu parles toujours de cette solitude ?
Non, je rigole. En plus, c'est pas
est-ce
vrai.
Est-ce que c'est un running gag ou est-ce que...
Non, écoute, à vrai dire, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, une part de moi qui aime beaucoup... En fait, je trouve ça... Déjà, cette histoire de célibat m'a permis quand même de raconter plein de blagues sur scène. et je pense de créer ce podcast aussi, qui est qu'à chaque fois où tu peux... évoluer ou assumer ou attirer ton attirance pour un gars, c'est quand même, on le voit quand on est maqué, c'est quand même un peu plus compliqué d'avoir ce genre de discours.
Oui.
Dans un couple exclusif, on va dire. Et que donc ça, je m'amuse, je suis contente d'une certaine manière d'avoir eu ça. Après, non, moi la solitude, je trouve ça super. C'est juste, genre l'autre jour avec ma mère qui me disait que elle fait vraiment son calcul que là, dans 2 ans, elle veut être à la retraite, et ensuite, dans 2 ans, elle m'a fait comprendre qu'elle veut s'occuper d'un bébé. Et que tout en dehors de ça la fera souffrir.
Parce qu'il y a eu... Alors, c'est quoi ta relation avec tes parents ? Putain, là, ça part en psychanalyse.
Ah, mais ouais, mais t'es l'invité qui me pose le plus de questions. Mais non, je suis très très proche de mes parents.
Okay.
Et résultat, j'ai vraiment envie de fournir à ma mère un bébé dont elle pourra s'occuper. Moi, j'en ai envie, mais je pense que j'ai moins envie d'un enfant que de fournir à ma mère un enfant qu'elle mettra dans une poussette et elle ira dans des squares et elle jouera ce rôle de super mamie et ça sera le troisième grand chapitre de sa vie. Et je veux pas la dépriver de ça, quoi.
Ouais, mais pourquoi se mettre la pression si ça tombe dans 1 an ou si ça tombe dans 5 ? Qu'est-ce qui est... Là, t'as quel âge, Rosa ?
Bah là, j'ai 31.
Ouais, donc il y a... Tu vois, t'as... Oui, il y a cette fameuse horloge
et tout. Ouais. Non, écoute, dans un an, très bien. Dans cinq, ça sera en Espagne, quoi. Non, mais en tout cas, oui, je réfléchis vraiment à des trucs de PMA. Je réfléchis ouais. Alors après, c'est en train de venir en France, mais ouais, je...
Donc potentiellement, tu envisages d'élever un enfant toute seule.
Ouais. Okay. Ouais. Je l'envisage complètement. C'est pas le parcours romantique que j'avais imaginé au départ, mais quand je pense à solitude, tu vois, ça, je me dis bon, c'est pas et je sais pas comment je l'expliquerai à l'enfant, tu vois, genre, écoute, maman aimait des mecs vraiment torturés. Elle avait ce podcast et c'était compliqué de se maquer parce qu'elle aimait bien recevoir plein d'invités. Et puis mamie voulait un petit enfant. Donc voilà, on est allé congeler ses ovocytes et te voilà.
Non, c'est pas ça, c'est plus l'éducation d'un enfant.
Ah bah non, mais c'est clair que c'est pas le plan A. Le plan A, c'est de rencontrer un mec, de partager une vision commune, de se dire, ah mais oui, bien sûr, évidemment, on lui fera faire d'un instrument, formidable. Et ça, c'est le plan A, c'est très bien.
Il en est où ce plan A? C'est
mais
quoi
non,
là,
mais,
on est
ce... en... mais alors le plan A, mais attends, est-ce qu'il... à un moment, il faut que je te lise ton poème aussi. Tu sais que j'écris un poème pour chaque invité, c'est pour ça que je te demandais si t'avais écouté le podcast. C'était que ça peut surprendre quand on n'a pas écouté le podcast.
D'accord.
D'accord. Ça va te mettre mal à l'aise.
Ah, ok, bah,
voilà.
Super. Génial. Et tu veux pas qu'on termine ça?
Ok,
et
d'accord.
parce que là, c'est l'échappatoire.
Le plan A, où est-ce qu'il en est aujourd'hui?
C'est quoi? Est-ce qu'il y a des sites de rencontres?
Non, ça j'ai fait et en fait, ça marche pas.
Ah bon?
Non, ça marche pas pour moi. J'ai pas d'attirance a priori pour quelqu'un que je connais pas. Même physiquement, en fait, ça m'est complètement égal. Je n'ai d'attirance que pour les hommes dont je connais le travail artistique.
Ah ouais, donc ouais. Un comptable, c'est niqué, quoi.
Un comptable, c'est niqué, ça fonctionnera pas. Sauf si, j'en sais rien, je le surprends en train de compter des chiffres incroyablement bien. Non, mais peut-être que c'est pas forcément un artiste, ça se trouve, je sais pas, mais c'est parce que ça peut être même. Ça m'est arrivé, je pense que c'est l'autorité, une forme de pouvoir, mais pas liée à l'argent, liée au talent. Ça, je trouve ça excitant.
Ouais, mais par exemple, un avocat.
Un avocat, carrément? Non, un avocat, complètement. Je trouve ça cool, un avocat. Mais un avocat, j'en rencontre pas. Les avocats, déjà, ils sont tous mariés. Ils se sont tous rencontrés dans leurs écoles d'avocats ou dans le 16e arrondissement ou j'en sais rien.
Les clichés.
Non, attends, tu sais quoi, j'ai des copines avocates et donc je suis allée à des mariages. Pourquoi j'ai... Mais ils étaient tous mariés, mais. Ils étaient tous mariés, les avocats. Ça y est, 31 ans, ils sont mariés, ils sont papas, les avocats, là.
Ah bon?
Ah ouais.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, d'accord.
Cela dit, Dupond-Moretti m'a un peu choqué quand j'ai fait Ruquier.
Oui.
Ouais, la première émission, il était là et dans le couloir avant d'entrer, j'ai vu que. Enfin, il est maqué et tout, mais je me suis dit. Ok.
Donc là, tu parles du ministre de la Justice. C'est ça. Oui, pardon.
j'ai vu qu'il m'a un peu checké, ouais. Ça, c'est. Toi, est-ce que tu repères quand tout d'un coup, quelqu'un te regarde un peu de façon plus appuyée?
En fait, je suis nul là-dedans. C'est-à-dire que ça m'a souvent joué des tours. Les fois où j'ai cru, non. Et les fois où, en fait, si, je voyais rien du tout. Donc, mais vraiment, je suis nul là-dedans.
Et est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressembles à James Franco?
Écoute, non.
Non?
Bah, putain, j'ai bien fait de venir à Bagnolet.
Mais ouais, si, c'est vrai. Vous
à
avez...
James Franco?
Tu ressembles vous avez la même carnation, vous avez un peu le même teint. En fait, Villa, c'est parce que t'as des origines italiennes?
Pas du tout.
Ah
non, en vrai, c'est un raccourci de mon nom de famille, Villa.
Ah, c'est quoi ton vrai nom?
Ça, je le dirais pas parce qu'on s'en fout.
Vilasnovic.
Vilazensky. Non.
T'es pas juif?
Non.
Ah merde. Parce qu'il y a beaucoup de juifs qui ont.
Parce qu'en plus, dans tes critères,
non,
y a...
pas du tout, je rigole. Mais il y a beaucoup de juifs qui ont raccourci leur nom.
Ah oui, bien sûr, pour des raisons évidentes de nazisme. non, mais c'est un raccourci de. Parce qu'en fait, quand j'ai démarré il y a longtemps par la radio et tout. je trouvais que mon prénom et mon nom, mon prénom c'est Thomas, et que ça ne claquait pas de ouf. Et du coup, j'ai raccourci mon nom de famille. Et puis surtout, je m'étais dit, il y a 12 ans, 12-13 ans, on ne sait jamais, si jamais tu fais un truc qui soit ne plaît pas à tes parents ou qui peut les mettre dans l'embarras, au moins ils ne seront pas touchés. Et la preuve que malheureusement j'ai eu raison des années après, c'est quand j'ai eu mes soucis chez Thierry Ardisson et Robert Ménard, je me suis pris tous les néo-nazis de France sur le dos. Et en fait, ils m'ont jamais retrouvé parce que, en fait, Tom Villa dans les pages jaunes, il n'existe pas, quoi.
Waouh. Mais attends, parce que moi, je suis allée sur Internet, je suis tombée sur le truc avec Rachida Dati, qui est extrêmement drôle, et avec Bounaïmin, c'est ça.
Oui.
Mais Robert Ménard, je suis pas tombée sur cette vidéo.
Alors, Robert Ménard, tu connais pas du tout l'histoire avec Robert Ménard. En gros, l'histoire avec Robert Ménard, donc on. Je suis dans l'émission de Thierry Ardisson. Moi, mon rôle, c'est de faire vraiment des vannes aux invités. Je suis son stagiaire la première, deuxième année. Puis après, on trouve le CDD, puis etc. Mais c'est un rôle très rigolo où je viens, je lui apporte son café et puis je lui fais un peu, soi-disant, la présentation des invités. Et ça me permet de leur faire des vannes plus ou moins gentilles. Robert Ménard vient un coup... je vais pas me gourer dans les dates. Bon, en gros, il vient un coup, je le savate un petit peu, même très fort. Il me traite de minable. Donc voilà, ça c'est le round 1. Et round 2, il revient 3-4 mois après. Et là, je veux le resavater. Et ce qui se passe... c'est que vraiment moi j'ai prévu ma chronique, je fais exprès de pas le croiser avant dans les couloirs parce que tu l'as vu un petit peu, t'as eu l'expérience chez Ruquier et tout, tu peux croiser les invités etc, mais nous comme on a un mini contentieux avant, en fait je veux pas créer de tension avant le plateau, en fait dans ma tête je me dis il faut que tout se passe en plateau, tu vois, vraiment je en mode James Bond, il est là, il est pas là, non c'est bon, il est pas là, et donc avant le tournage de l'émission, Je suis dans une loge avec Laurent Baffy, Yvan Le Bolloc et Bruno Solo, qui sont les invités, et ils me disent « on va le défoncer ». Parce qu'il y a 20 ans, on l'a aidé quand il était à Reporters sans frontières, qui était une très noble cause, à coller des affiches, etc. 20 ans après, il a retourné sa veste et il nous a pas dit merci, donc on va le défoncer. Donc là, tu fais « ah, ça sent la bonne émission,
wow.
Plus moi j'ai mon papier, machin ». Et en gros, tous les invités vont s'installer en plateau. Moi, je regarde sur un des petits retours et je le vois que là, il se rend compte qu'il est entouré de Thierry Ardisson, qui est toujours cage dans ses questions, de Laurent Baffy, de Yvan Le Bolloc, de Bruno Solo. Et là, je le sens sur son visage qui se dit « putain, je suis dans un traquenard, en fait. Ça va être long ». Et moi, j'arrive au bout de 3 minutes d'émission et je le défonce. Et il s'en va.
Il quitte l'émission, il sort du plateau.
Il quitte, il fait « Allez, c'est bon, j'en ai trop entendu », il se lève, il se barre.
Oh.
Et là, dans ma tête, j'ai l'impression d'assister à un accident de voiture devant moi. Parce qu'en vrai, je savais, le but c'était de le titiller, je me doutais que ça allait pas lui plaire, mais jamais j'aurais, à l'époque, pensé qu'il serait capable de partir. Mmh. Et c'était pas ma volonté.
Mmh.
Donc il se bat, Ardisson le course, il dit « Robert, reviens, Robert », etc.
Wow.
Il reste un quart d'heure dans la loge, et Ardisson revient, et il me fait... il fait à tout le monde « Bon, Robert s'est barré », il me regarde, il me fait « Putain, tu fais chier
!»
Et là, ça, tu sais, t'as là t'as froid là.
Ouais.
Mais il me dit tu fais chier, mais pas, y a rien de méchant chez Thierry, mais à juste titre en fait. Pourquoi il me dit tu fais chier? Parce que il perd un invité, donc il perd une interview de 20 minutes avec l'invité, et il perd un débat de 20 minutes sur la fachosphère avec lui. Donc il y a 40 minutes d'émission en péril parce que un seul invité est parti.
Wow.
Et là, il a cette idée de génie tout de suite. Il fait « Baffy, tu vas jouer à Robert Ménard toute l'émission ». Donc Baffy, il y avait ses deux sièges, il y avait le vide et lui, et il changeait de siège. Donc il se mettait dans un siège, il faisait le mec d'extrême droite, il se remettait dans son siège de Baffy pour faire des vannes et tout. Et ça a donné, je pense, l'une des émissions les plus mythiques de Salut les Terriens, en tout cas. Donc voilà. Suite à ça... moi, je sens qu'il vraiment... Enfin, je le sens, je l'ai vécu, mais qu'il s'est passé, qu'il va se passer un truc très fort parce qu'on enregistrait le jeudi après-midi. Et ouais, tu sens qu'en plus, vraiment, ça va buzzer, quoi. Ça
ouais,
va...
qu'il y aura des réactions.
Ouais, ça va en parler dans toutes les émissions et tout. Parce que c'est rare aujourd'hui les invités qui quittent le plateau.
C'était il y a combien de temps ?
4 ans.
Ouais, et encore, il y a 4 ans, j'ai l'impression qu'il y avait une marge plus grande au dérapage. Que... Enfin, j'ai l'impression que chaque année, ça... on mange sur le... Tu le sens... C'est ce dont tu parles un peu dans ton spectacle, quoi. C'est... ce, enfin, j'ai l'impression que tu réclames le fait qu'on puisse continuer à être insolent, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Mm. Attends, on fait une petite parenthèse. Ouais, ouais. Doliprane ou pas?
Oui, bien sûr. Ah mais zut, t'as mal à ta tête.
Ouais, mais tout va bien. Attends, je t'en prends juste. Ah, trop bien. Merci beaucoup.
Eh, mais parce que tu bosses beaucoup, hein, en fait.
Le mal de crâne?
Oh. Bah oui, tu te lèves tôt. Tu t'es levé à quelle heure pour aller à Europe 1?
Je suis levé à 7h, ça va, c'est pas
grave. Ah ouais, si, 7h, c'est... 7h, c'est des envies de suicide.
donc non, mais bref, donc, sors du plateau de l'enregistrement, et tout de suite j'appelle mes parents, je fais « bon, ben là, il s'est passé un truc un peu chaud sur le plateau, ça va peut-être remuer un petit peu, mais vous inquiétez pas, tout va bien et tout ». Et ça l'a pas loupé, quand en plus il y a eu un petit extrait qui est sorti avant, sur les réseaux sociaux, et ben oui, le samedi à 19h30, le Twitter s'enflamme, quoi, vraiment. C'est... Et donc là, pendant une semaine, je suis dans une machine à laver de... Parce que j'avoue, je regarde
menaces.
Tous les réseaux sociaux. Ouais, ouais, de menaces, de...
De menaces de mort, d'insultes.
Ah bah, de tout, de tout.
Et t'as pas pris de la sécurité, appelé la police
Non, parce que justement, il y avait ce truc de...
De non.
De non. Et ouais. Donc c'est pour... Et tu vois, c'est pour boucler l'histoire de finalement... Du coup, c'était là où j'étais content de pas avoir gardé mon vrai nom. Du coup, mes parents ont jamais été emmerdés et tout.
En même temps, c'est la classe parce que tu vois Robert Ménard, je veux dire, personne peut en vouloir de. Déjà, c'est un.
Non, si, il y a 2-3 fachos qui.
Oui, voilà, des
mais
fachos.
Mais en plus, je les attaquais même pas eux, les fachos, les nazis. C'était que sur lui et sur l'Amérique. Non, mais...
Et même si tu les avais attaqués eux, a priori, c'est bien que. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais, je veux dire, il faut oser, quoi. Moi, c'est vrai que un peu de méchanceté, ça fait du bien. Enfin, je sais pas comment dire, c'est...
Non, c'est pas... En fait, là, il y avait... Disons que chez Ardisson, je l'ai fait pendant 4 ans, l'exercice, toutes les semaines. Donc, ça fait, je sais pas, quasiment 200 papiers.
Ouais.
Il y avait des... je voulais être piquant, mais pas injuste. C'est-à-dire que quand il y avait... des gens qui venaient pour un film, pour un album, pour
oui,
un
t'étais
truc.
T'étais plus doux.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est des artistes, donc ils ont bossé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur leur projet. Mm. Qui suis-je pour démonter le truc?
Mais est-ce que ça t'amusait autant?
De quoi?
D'écrire pour justement quelqu'un contre qui, a priori, t'aurais aucune animosité.
Je sais pas. C'est vrai que des fois, bizarrement, c'était plus dur d'écrire pour des gens que je connaissais ou des fois avec qui j'étais pote. Parce que tu fais merde, tu vois, je vais pas sortir de vrais trucs intimes. Non, moi, ma limite... Mais par contre, les politiques, ça m'excitait.
Ouais.
Ça m'excitait parce que je partais du principe qu'ils ont choisi de faire ce métier d'aide publique, de vouloir être aimé des gens, de vouloir, soi-disant, les aider, de changer la vie. Et puis, ben, des fois, ils ont des discours un peu bizarres, dont Robert Ménard. Donc c'est pour ça, moi, j'ai pris que des faits qu'il a fait. Et c'est, je sais pas si t'as déjà vu passer ces journaux de la ville avec ses unes un peu de propagande. Enfin, c'est fou, quoi.
Bien sûr.
Donc c'est pour ça que j'aimais bien les politiques, quoi, pour aller chercher les petits trucs. Et puis surtout les politiques. Alors je vais pas dire que les autres, je bossais pas. Si, je bossais de ouf. Mais les politiques, je bossais 4 fois plus parce que quand j'allais chercher des phrases qu'ils avaient dites, etc. Il fallait vraiment, c'était un travail de fourmi et de journaliste, de bien sourcer pour pas qu'ils puissent te coincer, dire non, ce que vous dites est faux, tu vois. Donc, mais effectivement, j'étais tristement plus excité d'avoir en face de moi Robert Ménard, un Éric Zemmour, Rachida Dati, que
une comédienne.
Ouais. Oui, c'est ça.
Évidemment. Attends, je te lis quand même ton petit poème parce qu'il parle de ça, et ensuite je reviendrai là-dessus. Tom Villa.
Oui.
Joli, gracile, léger Tom Villa, malin comme un pas si petit singe, plutôt long, mais joueur, frais et sain. Moi, j'attire les gros aux cheveux gras, à la barbe grisonnante, aux dents jaunes, pas les gendres idéales. Tom Villa a ce côté princier, altier, droit, qui danse le twist avec toutes les mamans, qui fait le meilleur discours au mariage de n'importe qui, à vrai dire. Dans son spectacle Les Nominés Sont, Tom se délecte, ses mots sont fins et immédiatement drôles. Tom peut tout se permettre, les blagues les plus osées, les plus méchantes, parce qu'il a ce teint de rose fraîchement cueilli. Cette haleine de jasmin, que j'ai hâte de respirer de loin lors de nos discussions pour mon podcast, épisode spécial « Mec que je veux Ken, mais dans des draps de lin, dans une chambre bleu clair, avec vue sur une île grecque. » Et j'avais casé ses aisselles de cerisier en fleurs, mais je ne savais pas où le foutre. Donc je l'ai mis plus loin. Genre j'ai mis de l'espace et je me suis dit, bon, si t'arrives à caser aisselles de cerisier en fleurs quelque part. Et en fait, non, je ne suis pas...
Je ne suis pas japonais.
Ouais, c'est ça. C'est...
Bah, mais, très bien.
Mais donc en fait, oui, le poème, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est ça, peut-être qui fait que tu puisses aller aussi loin, que ce soit dans ton spectacle ou finalement dans ses chroniques, c'est le fait que... Enfin, t'as un côté Dorian Gray, quoi. Quand on te voit comme ça, tu n'es, c'était pas inquiétant a priori. Mmh. Et en fait, tu peux peut-être certainement aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui.
Oui, qui a l'air d'être.
Dont on a peur immédiatement.
Ouais, un peu. Ouais. Plus, ouais, c'est une chance. Mmh. Enfin, j'en ai fait une chance et peut-être une force ou. Mais parce que aussi, y a rien de perso. Moi, j'aime quand c'est piquant, quand ça claque, mais quand dans mon œil, tu vois qu'il n'y a rien de méchant, ouais, de personnel. Ouais. Ou de,
Et t'as toujours été comme ça ? Je veux dire, quand t'étais enfant ou adolescent, est-ce que tu t'aimais bien taquiner tes parents ou de la famille ou au dîner de famille ou dans la classe ou d'autres élèves ou ce côté, cette facilité pour le roast
Pas du tout, mais alors à l'opposé de ça. C'est-à-dire que vraiment, jusqu'à mes 16 ans, j'ai été d'une timidité folle. Vraiment limite dans les jupes de ma mère, je me souviens quand on partait en vacances, tu sais, tu pars, je sais pas, une semaine, mettons dans un camping, tu sais, puis t'as toujours, au moment où t'arrives, tu sais, devant la bagnole, t'as 25 gamins qui traversent en train de courir, en train de jouer et tout, donc tu fais ah merde, le groupe il est déjà fait, donc du coup, comment je vais aller dans ce groupe de 25 enfants, et puis t'y vas pas, et puis tu restes avec tes parents, et puis au final, je sais plus pour quelle raison, t'arrives le dernier soir, éventuellement, parce qu'il y a un truc spécial enfant, et en fait, t'arrives à te faire des copains, mais ils partent tous le lendemain matin, et tu vois, vraiment c'était ça, mais c'est pas malheureux, mais j'étais extrêmement timide, j'osais pas, j'ai un peu ce truc de pas déranger, quoi, de pas déranger et de peur du refus de, tu sais, d'y aller. Salut, je peux jouer avec vous? Non. Ah bon, d'accord, tu vois, j'avais peur de ça, donc du coup j'y allais pas.
Donc au contraire, la scène c'est vraiment un exutoire.
Ah mais mille fois, ouais. Et donc en gros l'histoire c'est que je fais du théâtre avec mes potes en seconde. Et là ça a été la révélation, parce que du coup sur scène je lâchais tout ce que j'avais envie de lâcher,
et moi,
vraiment j'étais déjà fan à l'époque, je regardais Tout le monde en parle, alors que mes parents pas du tout, mais fan d'Ardisson, de Baffy, oui, j'adorais Baffy, j'adorais Des Proches, dans ce que j'aimais en chronique, j'adorais Stéphane Guillon dans 20h10 pétante, tu sais, les portraits,
ouais,
qui claquaient,
très bien écrit,
extraordinaire. Donc
tes parents font quoi?
Mon père il est vendeur de voitures chez, okay, Peugeot. Et maman était comptable et a arrêté de travailler à ma naissance pour s'occuper de moi et puis après de ma sœur qui arrivait ensuite.
D'accord, donc un milieu pas spécialement intello, de journaliste, enfin pas...
Ça te que t'es en train de dire que mes parents sont cons?
Non, pas du tout.
Non, non,
mais
oui,
c'est
oui.
Classe moyenne, ça te préparait, ouais, pas forcément à venir sur des plateaux, quoi.
Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, et puis mes grands-parents, charcutier d'un côté, boulanger de l'autre, donc non, non.
Parce que quand on te voit, on te dit tu pourrais jouer des nobles dans des films, tu vois, on te met... dans The Crown sur un cheval et tu fais très bien Buckingham Family, quoi. Enfin,
ah oui, bah non, pas du tout. Pas, ouais, du tout. Mais non, je pense que les premiers trucs qui m'ont titillé, c'était quand les réunions de famille quand mes parents invitaient des amis. Et vraiment, ce que j'adorais, c'était les fins de repas où tu sentais qu'ils avaient un peu bu et que ça fusait, quoi. Sa fille se racontait des blagues et tout, tu sais, vraiment des blagues un peu comme aux grosses têtes,
ouais.
et mon père raconte très très bien les blagues, ses potes aussi, donc je pense que c'était ça qui me titillait. Donc après, un peu en grandissant, du coup j'essayais d'en préparer une ou deux aussi pour m'insérer au groupe et tout, voilà,
D'accord, donc ton père était blagueur?
Ouais, mais pas pareil, un peu comme moi, pas il arrive avec le clairon. Non, non, très hyper discret, mais effectivement, après 2-3 verres, des fois, tu sentais qu'il se lâchait un peu plus.
Et... Ouais. Et famille française, donc
Oui, il y a un côté breton, il y a un côté côté de Chartres. Là, vraiment, la campagne...
Il y a plein de bretons mates.
Ah
en fait,
bon, mais
ouais.
Je suis pas mat
si
du tout.
Si t'es mat,
ah non, je suis rouge, ça n'a rien à voir. Non, mais je suis pas. Non, mais en vrai, je suis pas mat.
Si, quand tu bronzes facilement, non?
Pas tant que ça. Non, ah ouais. Non, faut vraiment. Moi, je suis Mister Crème, quoi. C'est-à-dire que.
D'accord.
Ouais, ouais. Non, non.
Ok.
Ah non, je connais ma peau, hein. Non, vraiment.
Mais d'accord. Et est-ce que tes copines, c'est une crainte, justement, qu'elles se fassent tailler, genre, parce que moi, je me dis. Il s'est tellement envoyé des punchs, j'aurais peur de me retrouver dans une dispute, tu vois, avec Tom Villa.
Ah, je suis pas bon en dispute.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, je suis pas bon. Je perds mes moyens et tout. C'est l'enfant qui revient, je pense. Je suis vraiment pas très bon en dispute. Et...
D'accord. Donc ça commence. Et donc en fait, donc au départ, donc vrai.
Parce que j'aime pas très, j'aime pas beaucoup le conflit en fait.
Ah ouais.
Ouais, non, je suis vraiment moi. Si je peux éviter tout ce qui est conflit, etc. C'est.
T'aimes bien une belle, bonne blague bien écrite.
Que c'est quoi l'autre?
Bah plutôt que l'envie d'en découdre quoi. C'est que ça s'arrête à la blague, ça commence et ça se termine avec la blague, avec le c'est pas comment dire, c'est le jeu de mots quoi. C'est ça ce que chez des proches et tout ce que tu dis.
Ah oui non moi il y a les deux en fait. J'aime préparer, j'aime essayer de décrire du mieux que je peux. Mais en même temps, bah, tu l'as vu sur le Ring Comedy Club qu'on a fait ensemble, l'émission pour France.tv. Pour le coup, il y a des trucs écrits, mais je suis à l'écoute de tout ce qui se passe et j'aime l'impro aussi, quoi. Donc,
Moi, j'ai trouvé que c'était hyper bienveillant, mais justement, c'est ça que moi j'ai trouvé très impressionnant, c'est que tu peux une minute avant. Être dans les coulisses avec moi et me coacher, me dire des choses hyper encourageantes et me dire « te fais pas bouffer par les autres gars et trouve ta présence sur scène ». Et moi, je suis là genre « oh, trop gentil ». Et d'un coup, paf, sur scène, tac, 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 enfin, quand même très, très agile à improviser et puis à puncher, quoi. Et c'est vrai que c'était quasi schizophrénique, quoi. T'es passé du noir au blanc, genre de la personne en coulisses par rapport à la personne sur scène.
C'est vrai, tu trouves ?
Ah ouais, ouais, ouais. C'était fou, quoi.
Ah
parce
ouais.
Que sur scène, oui, parce que sur scène, c'est-à-dire que t'étais souriant, etc., mais avec une distance, tu vois, gracieuse de je présente, et puis tu savais, genre. Avec un charme, mais quand même savoir te foutre de la gueule de tout le monde. Mais. Te foutre de la gueule dans le sens où, je sais plus, par exemple, Edgar Yves, ça, genre, ah, c'est le Mélenchon du Bénin, etc. Enfin, en fait, des jolies petites punches bien trouvées, mais d'un coup qui sortent très facilement. Mmh. Et tu te dis, genre, ah ouais, c'est. Et puis avec, je trouve, avec facilité. Là où, genre, moi, je trouve que je fais. Moi, ce qui me manque, c'est que j'aimerais, genre, pouvoir montrer que je fais les choses avec facilité. J'ai toujours l'impression d'être ce hamster dans sa roulotte qui montre le travail et la lutte. Mais genre au Ring Comedy, quand genre il y avait une blague qui me venait, genre j'ai genre et puis au moment où je la disais, genre je regardais tout le monde avec un mode c'était bien, non, tu vois, c'était aussi parce que je l'avais jamais fait. Mais toi, il y avait ce truc un peu machine, quoi, où en fait on sentait que tu pouvais en sortir 20, quoi. C'était, je pense que t'étais plus fort que tous les humoristes qui sont venus sur le ring.
Non, non, non. C'est très gentil. Mais non. Non, après, moi, c'était mon rôle d'essayer de vous accueillir le mieux que je pouvais. Moi, le but, c'était justement de ne pas chercher à être plus drôle que les 6 humoristes que j'avais en face de moi. Le but, c'était de vous laisser le maximum de place, de vous mettre le plus en confiance et en bienveillance parce que, pour l'avoir vécu... C'est là où tu peux potentiellement être le meilleur, en fait. Et j'avais juste envie que vous soyez les meilleurs et que vous ayez aucun regret à la fin de l'émission et pas que vous dire « Ah putain, merde, j'aurais dû oser parce qu'en fait, c'était cool et tu vois. »
Ouais.
Tu vois, donc c'était ça. Après, de toute façon, c'était enregistré. On enregistrait le double de ce qu'on a gardé au montage, on le savait, pour justement laisser la place qui est du raté et qu'on coupe les trucs pas drôles ou pas bien ou pour que qu'on ait au final que le meilleur de tout le monde, c'était ça l'envie. Mais d'où je vous laissais, j'espère en tout cas, le maximum de place. Et bon, après, des fois, il fallait recadrer des trucs. Il y avait quand même un conducteur, des jeux, des trucs à faire. Mais,
ouais, moi, je me suis bien lâchée sur la deuxième, surtout. J'ai trouvé que j'étais meilleure sur la deuxième.
Bah, c'est souvent le cas, parce que la première, en plus, c'est un nouveau format.
Tu découvres,
tu découvres, tu sais pas à quoi t'attendre. T'avais qui en face de toi sur ton premier enregistrement ?
Le premier, c'était Nick, Noom et Seb.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est surtout... je crois que c'est pas mal, Nick et Noom. Enfin, ils y sont... Ils avaient trouvé un truc entre eux, et nous, avec Pierre et Edgar...
Et c'était leur deuxième enregistrement.
C'était leur deuxième.
C'est ça.
Et nous, on était un peu... on arrivait. Et puis Edgar et Pierre, c'est des bonhommes, quoi. Et puis, c'est vrai que moi...
Bah, Edgar, il prend de la place. Et il a raison, mais il...
Bah, il est très charismatique, il est immense, mais même... Mais c'est vrai que c'est... Il faut pouvoir exister à côté d'Edgar. Et après aussi, enfin même c'était intimidant là, les danseurs, le machin, le truc très. Enfin, moi je viens d'un milieu super intello, mais pas.
Donc on a fait une émission de Goliot, hein, merci beaucoup.
De quoi ?
On a fait une émission de Goliot.
Non, mais quand moi je vois des danseurs, etc. et tout, je me dis, enfin, j'admire, mais j'ai l'impression de, enfin comment dire, je sais pas, c'est une angoisse existentielle de. Où on m'a fait comprendre que j'aurais pas accès à ça. Enfin, en fait, tu sais, mon père, il produisait des films d'auteurs étrangers, et donc il a produit beaucoup de films chinois sur les événements Tiananmen ou la condition ouvrière en Sibérie. Et quand tu vois, et ces films ne rapportaient pas d'argent, mais avaient des prix et tout en festival. Et quand moi je lui disais, en fait, et mes parents m'achetaient pas les CD de Britney Spears. J'avais pas le droit. Moi, j'ai eu un interdit de la culture populaire.
Ah ouais.
Ouais. Donc, énorme. J'avais pas le droit de regarder la télé.
D'accord.
Donc, moi, toutes les émissions que tu décris, j'avais pas le droit de les regarder. Ardisson, j'ai jamais le droit de regarder Ardisson.
Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Alors, je sais que c'est pas, c'était pas le grand échiquier, mais même Ardisson, justement, où ça pouvait être très large de Jamel à.
Mais je savais même pas qui était Jamel. Enfin, je dis pas que j'ai grandi dans une secte,
alors,
mais...
Du coup, tu es né en quelle année ? Non, mais alors, de pop culture...
En termes de pop culture, j'avais pas de référent. C'est quand... Je vois d'où, tu vois, te vient ton esprit, etc. Et justement, cet esprit très... mais qui est dans la culture populaire française aussi, ou de la blague, de la joute. Et ça, moi, quand on allait chez ma cousine... elle avait du Bosque, Jamel, etc. Donc je voyais qu'il y avait des gens super. Mais...
C'est quoi ce monde ? Je ne connais pas.
Mais moi, non, je regardais des films d'enfants, les six, les Disney. J'avais le droit à Disney, j'avais le droit quand même.
Okay.
Mais avec un débrief après, avec un comme après, mon père me disait Anastasia, il faut pas. C'est une éloge
c'est
du charisme.
Disney, c'est pas un Disney.
Ah, c'était pas un Disney, ouais. Bon, un film d'animation, tu vois, donc c'était pas bien. Non, culture populaire, non. J'écoutais Barbara et Edith Piaf à 8 ans, j'en parle dans mon spectacle, mais donc j'étais pas du tout cool, machin, dans les booms, mes premières booms au collège, quand genre il y avait la musique Maria Carré, genre tout le monde connaissait les paroles, et moi j'étais genre, mais quel est ce son entraînant ?
C'est vrai, c'est drôle.
Et donc c'était, non, puis même en termes de fringues, alors si, mon père avait quand même un peu de goût, mais bon, en même temps, comme on n'avait pas spécialement de thunes énormément, mais. Et non, et donc la télé, les spectacles, non. On allait au ciné et on voyait. Mes parents m'amenaient voir des films d'adultes, et genre notamment des films érotiques, genre. Non, mais parce que mon père avait produit un film français, il s'appelait Le Cri de la Soie avec Marie Trintignant et Sergio Castellito, et c'était sur une femme qui vole des tissus et alors qui se masturbe avec, tu vois. Et je l'ai vu genre à 7 ans, et tu vois, et c'était ça. Donc j'avais à la fois genre. Hyper décomplexé au niveau de la sexualité.
Ouais.
Et tu vois, genre me disant, le plaisir, c'est très important, c'est dans notre religion, tu peux demander le divorce dans la Torah si ton mari ne te fait pas jouir. Donc ça, genre, à 8 ans, j'avais compris. pas de... Ouais, non, pas les comédies. Si, je pense qu'avec mes parents, quand le premier truc, genre vraiment comédie où ils m'ont autorisé, c'était Mission Cléopâtre, tu vois. C'était... Astérix, mais parce que c'était au cinéma, et en sortant, mon père disait, oh, c'est hyper bien fait, hein, tu sais, genre reconnaissant, c'était
vachement. Ah, c'est rigolo. Oh,
ah ouais, c'est rigolo. Mais alors que ma mère, elle est à fond des proches, évidemment, ma mère était journaliste, donc elle connaît très bien, mais elle écoutait Rire et Chanson, enfin, je veux dire, ma mère, elle se privait un peu, je pense, parce que c'était mon père qui mettait ce climat du RSS au foyer. Et donc, moi, quand je me retrouve au ring, j'ai l'impression d'être une totale imposture. En fait, tu vois, je me dis, mais non. Ils vont se rendre compte que genre, j'appartiens pas. Enfin, que je. Et en fait, là où j'ai puisé dans la deuxième émission l'envie de buzzer et de vanner, c'est parce que quand j'étais dans une colonie, quand j'étais ado, la première colonie où j'ai réussi à m'intégrer, on faisait des débats. On avait des débats. C'était une colonie juive communiste. Voilà. Et donc...
La déconne.
Ouais, toujours pas de... Franchement, pas énormément de balles aux prisonniers, mais des débats sur pour ou contre Israël, Dieu, McDo, etc. Et il fallait quand même argumenter et être percutant. Et il fallait gagner. Et il y avait quand même... Et quand même, quand j'ai fait ma...
C'était un concours d'éloquence, un petit peu, non?
Un petit peu. Et aussi, j'ai fait ma bat mitzvah, et c'était mais dans une synagogue libérale. Mais les cours de Talmud, il y avait quand même cette idée de, il faut pouvoir argumenter, il faut pouvoir répondre à une question par une autre question. Il faut pas, l'idée c'est pas laisser l'adversaire gagner quand même.
D'accord.
Donc, voilà, c'est ça que je suis allée puiser. Je me suis dit, ah non mais en fait si je lui envoie ça, peut-être que ça répond après avec des blagues de cul quoi. Mais non, et après donc voilà, donc tout l'humour, moi c'est sûr que c'est un milieu où je suis là genre. Le stand-up, moi j'ai beaucoup d'excitation et de peur, tu vois.
Ouais.
Mais bon, c'est génial. Et c'est vrai que le ring, enfin, c'était très très drôle. Mais quand je voyais les danseuses, etc., et la musique hyper forte et les lumières, je me disais, wow. Enfin, en fait, il y avait un truc un peu limite surréaliste, comme dans, je sais plus si t'as vu le film de Matteo Garonne où c'est un gars qui fait de la télé-réalité, puis il devient hyper connu, etc. Et il vient un peu dans un monde. Et moi j'étais un peu dans ce truc-là, genre de comment ça va, tu sais, le film où le mec est dans un film avec Jim Carrey quoi.
Truman Show.
Ouais, il y avait un petit.
Ah oui, d'accord.
Il y avait
oui.
Un petit. Donc non. Mais ça s'est très très bien passé.
Mais
après.
Non, après dans le ring, ce qu'on voulait, c'est que justement déjà qu'il y ait des profils différents, on t'aurait pas mis en danger. Et puis surtout, pour l'avoir pas mal vécu, on sait que des fois il y a des émissions où si t'es pas bon en humeur et en impro, bah t'existes pas. Donc là, évidemment qu'il y avait de l'humeur, de l'impro dans l'émission, mais tu savais que tu allais avoir tes moments à toi,
ouais.
Où t'avais on avait donné des sujets, des vannes en vrai à préparer. Donc c'est ce qu'on voulait, c'est que justement que des gens qui soient pas forcément sur le papier les plus forts en impro, bah, c'est pas grave, parce que de toute façon, ils auront leur moment à eux, donc
sûr.
Ils existeront quand même dans le programme. Quoi. Et la preuve, c'est toi et par exemple Pierre, t'es venu Vois,
Pierre, il a galéré.
Il a galéré de quoi?
Bah, je trouve.
Ben moi, je
alors
trouve.
Alors que j'adore Pierre, je trouve que pour moi, c'est genre. Enfin, il me fait hurler de rire, je trouve son spectacle génial. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'il a eu du mal à prendre sa place au ring.
C'est pas évident parce qu'il y avait Edgar qui en prenait beaucoup.
Ouais.
Mais la preuve, c'est que vous, quand vous. En fait, vous avez beaucoup moins parlé que Edgar. Mais par contre, quand vous avez eu ou pris la parole, pam, c'était dans le mille, quoi.
Ouais.
Et ça, je trouvais ça génial.
Ouais. Non, mais Pierre, il est trop chou. Mais c'est vrai qu'il était, très... non, mais tout va bien, pas stressé et tout, machin. Mais non, ça, c'est un truc, le stress. D'ailleurs, je voulais m'excuser parce que mardi aux Étoiles, on a discuté juste avant que j'entre sur scène et j'étais hyper stressée. Et quand je suis stressée, je me touche les seins, je sais pas si j'étais là genre après en fait,
ah
tu
non,
vois.
Okay. Bah tu vois, je ne vois pas les signes.
non mais c'est vrai que tu me parlais et moi j'étais là, je me disais genre j'étais en train de me faire une espèce d'automassage décontractant et je me suis dit j'espère que genre c'était pas un peu me too pour Tom. J'ai l'impression que non, ça
allô
ça t'a pas.
Allô. Non et puis okay. Mais j'ai bien vu que tu étais stressée et tout. Non mais tout va bien, il y a pas de
ouais. Mais donc voilà, et donc là, t'en es où?
Est-ce qu'on peut faire une micro pause pipi? Tu gardes ta question?
Bien sûr. Ah oui.
C'est, comment ça se passe dans le podcast? C'est, on garde les pauses pipi ou pas?
Non, ça dépend. Ça, c'est le côté pas très chic de mon appart, c'est que les toilettes me donnent immédiatement sur le salon. Apparemment, il vaut mieux avoir des toilettes qui donnent sur une chambre que des toilettes qui donnent sur le salon, mais c'était beaucoup de travaux pour.
On pourra parler aussi des 28 rouleaux de PQ entamés.
Ah ouais, bah ça c'est l'effet confifi.
On fait un rouleau par un rouleau en fait, non?
Toi tu fais un rouleau par rouleau?
Ouais.
Bah non, mais ça, c'est de la, la fameuse... Non, c'est de la fameuse époque de quand j'étais avec cet ex qui, lui, il se faisait des coussins de PQ à chaque fois qu'il allait aux toilettes pour la moindre petite goutte, quoi.
C'est bien des coussins de
PQ. Ouais, il était maniaque, c'est-à-dire qu'il allait, il faisait pipi, et ensuite il prenait un rouleau, et puis il faisait mais, genre, la moitié d'un rouleau pour une goutte de pisse.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Bah, il était un peu...
Celui qui était avec Adrienne après,
ouais,
et tout?
Ouais, ouais. Il passait un temps fou. Il avait la chiasse en permanence. Donc je pense que ça rend un peu précieux sur tout ce qui est de l'ordre.
Bon, on l'embrasse. En tout cas, il vient d'être papa. Et...
Ah mais il le sait, il le sait. Ça, c'était l'une des blagues que... Je veux dire, d'ailleurs, je ne l'ai pas dans mon spectacle, mais enfin, j'en parlais souvent. Tout le monde savait qu'il avait la chiasse. À la moindre fête, il disparaissait pendant 30 minutes.
Ah ouais?
Ouais, il avait un vrai... Mais, et au final, c'est pour ça que je me suis... C'est vrai que là, je te parlais quand tu étais aux toilettes, mais je me suis habituée, peut-être à ce moment-là de ma vie, à parler aux gens. Quand... Parce que, tu vois, il était tellement souvent aux toilettes que forcément, on parlait. À la fin, il laissait la porte ouverte, quoi.
Même pour faire caca?
Ouais, pour faire caca. Il faisait caca à la porte ouverte.
Et,
ouais.
Mais alors vraiment, du coup, il y avait des... Donc, on regarde quoi ce soir
Bah, t'entendais des plops et ouais, ouais.
Ah ouais, bah ça, bah en fait, c'est ça, les tue l'amour.
Ouais, ça, ça a pas mal tué l'amour.
D'entendre les ploums, les ploufs.
Et ouais,
les...
ouais, il était tout le temps dérangé, tout le temps dérangé. Ouais, ça, ça tue l'amour, c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'avoir la chiasse, c'est pas... Et en même temps, ça peut être quelque chose de très romantique aussi. Dans,
Tu vas fumer une clope. T'as assez de câbles ou pas d'ailleurs? Si je vais fumer une clope à la fenêtre ou c'est...
Ah bah oui, oui, bien sûr. Attends,
je garde le micro.
Alors attends.
Ah bah oui, il y a du câble.
Ouais.
Merde. Je vais te faire Michel Drucker 92. Eh bien, formidable. Alors, nous sommes dans ce cadence 3 des chansons qu'on aime, qu'on aimera. Et ça, c'est Guy Lux. Je sais même plus. Ah oui, si le manteau, il est là-bas.
Wow. Toi, c'est l'inverse, moi, t'as une culture populaire extraordinaire, quoi.
Bah ouais, mais alors, tu vois, j'ai pas vu les parapluies à moi, donc...
Ouais. Mais c'est... Enfin, moi, quand je dis culture populaire, je dis c'est un vrai compliment, enfin, je veux dire, moi, c'est...
Moi, je suis très heureux de ma culture, enfin, je suis pas trop complexé, Non, j'ai une culture large. J'ai une culture large, un peu vieille pour mon âge. Attends, je vais mettre comme ça. Donc, vraiment, mais moi, je suis fan au premier degré d'Eddie Mitchell, de Johnny,
oui.
Enfin, fan.
Non, mais ça, moi aussi, la chanson française, je suis vraiment fan de chanson française. J'écoute régulièrement Dalida, Eddie Mitchell. J'adore la chanson française. Mais c'est, ça, c'est sûr que... Non, mais en plus, c'est trop bien, la culture populaire, dans le sens... C'est trop bien tout ce qui peut être accessible, tu vois. Moi, justement, je veux dire, quand mon spectacle, quand je suis allée jouer à Bourg-les-Valences en tournée à l'Appart Café, ça a super bien marché. Alors après, il y avait beaucoup d'interactions avec les gens et parce qu'en fait, je suis rentrée complètement dedans, ce qui fait que le spectacle faisait 2 heures, parce que je faisais une blague et les gens commentaient derrière, puis on discutait, puis je reprenais le spectacle. Mais c'était, et j'étais là genre, mais c'est possible, tu vois. Donc c'était, et j'ai préféré à parfois aux ambiances un peu froides et parisiennes et tout. Par contre, je suis allée à Saint-Gervais au Festival d'humour du Mont-Blanc. Bon, après là-bas, c'est quand même FN à Bâle, et j'ai fait un, et c'était pas mon spectacle, c'était un tremplin, donc j'ai juste joué 30 minutes de mon spectacle. Après un gars qui faisait du one et le mec
qui avant
je sais plus, mais le mec après moi faisait des chansons à la guitare, tu vois, Payard et tout. C'était pas juste, on n'était pas dans le même délire, quoi.
Ah oui, oui, oui. Et ça, des fois, c'est compliqué de passer. J'ai fait très peu de festivals, mais après des mecs qui ont 15 minutes, 20 minutes de ouf,
ouais,
pour un certain public,
c'est ça. Ouais,
et toi, t'arrives avec. Des trucs qui marchent bien,
lui,
et là,
il était hyper likeable et hyper. Enfin, avec des accessoires et un petit truc, un petit côté sympa, un petit décor, un petit. Et puis de temps en temps, avec des bons mots de. Et au final, est-ce que c'était pas mieux avant? Mais si on s'aime tous et qu'on est ouvert. Enfin, des trucs très genre. Des petites injonctions à. Aimons-nous les uns les autres. Moi, je suis arrivée après, tu vois, avec mes blagues sur le CUNY et sur le fait et ma misanthropie. Oui. Et il y a eu un. je me suis dit, là, ils vont me déporter. En fait, ils vont venir me chercher à la fin et ils vont m'amener dans un train et je vais être déportée. Et en fait, on va se rendre compte que derrière le Mont-Blanc, bah, y a un petit camp et que les gens qui ont bidé au Festival du Mont-Blanc sont déportés là-bas.
En Suisse, donc
voilà, en Suisse, non. Non, les Suisses sont cool, j'ai trop hâte d'aller en Suisse. La cigarette, tiens, bah, enfin, genre là dans la petite flaque, si tu veux, mais là je la
mets où?
Genre dans le petit truc vert là. Regarde juste derrière toi, Tom.
Pas une plante là.
Non, il y a une plante est morte. T'embêtes pas.
Très bien.
Mais oui, parce que toi, maintenant tu fais plus trop les plateaux. Maintenant que tu as ton spectacle, et je t'ai vu juste une fois au Topito, mais
ouais.
J'ai vu parfois que tu étais programmé au Paname, mais ça y est, maintenant tu as suffisamment d'exposition et de public naturellement avec les vidéos, les plateaux, c'est plus un truc que tu...
Si, je vais de temps en temps aussi au Sarfati.
Ah oui.
J'avoue que j'y vais moins, mais plus aussi faute de temps, quoi.
Ouais,
faute
bah ouais.
De temps... Non, à la limite, je préfère aller faire en cachette des premières parties de copains comme Maxime Gasteuil et tout. Non, disons que si plateau, c'est toujours bien quand même pour aller tester, je trouve. Pour tester, des fois, les premières parties, c'est pas mal aussi. Quoi.
Ouais, ouais.
Tu vois, Max, il joue au théâtre de la Tour Eiffel devant 500 personnes. Ouais. Là, tu sais si c'est marrant ou si c'est pas marrant. Quoi.
Incroyable. Ouais.
Donc,
ouais, Tristan Lepont aussi va jouer là-bas, c'est fou. Mais là, toi, ça y est, t'as aussi énormément de gens qui te suivent. Et tes vidéos, tes petites vidéos, elles cartonnent. Mais pourquoi tu travailles autant? Parce que...
bah, pour l'argent. Non, c'est quoi la...
Non, t'es workaholic.
Can you traduce?
Bah, t'es addict au travail.
Ouais. Mais comme un peu comme toi, mon travail c'est ma passion. Du coup, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Mais vrai, en vacances, au bout de 3 jours, je m'emmerde, quoi.
Mais c'est vrai que t'es assez pudique dans ton spectacle et dans tes blagues, sauf la fameuse vidéo très drôle avec les cartons qui passent, tout se passe bien. Mais sinon, dans ton spectacle, il y a pas, c'est pas du tout, on n'est pas dans un truc d'auto-dérision. Enfin, tu mets une grande distance entre ta vie personnelle et...
Ouais, parce qu'avant, j'avais un autre spectacle où, soi-disant, je parlais de ma meuf, de trucs, et c'était que des trucs de mytho, de début, de stand-up, comme
okay.
tu vois. Et c'était. Et c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Non, je préfère être globalement quand même sincère, même si c'est pas des sujets perso.
C'est plus de l'observation, ouais.
Ouais, de l'observation, mais avec. Mon petit point de vue sur les trucs, mais non, après, ce qu'il y a de chouette en mûrissant et à force de travail et d'expérience, c'est que du coup t'es plus perso, donc t'es plus perso, je veux dire, du coup j'ai moins peur de tester qu'avant.
Ouais.
Tu vois, il y a plus de... Toi, t'es venu à la première, à la reprise, à la nouvelle Ève, donc on avait rentré quand même 25 minutes de nouveau par rapport à la fin mars où on arrêtait avant le premier confinement. Mais j'avais jamais testé 20 minutes. Mais j'avais pas peur parce que, vu que c'est ce que je pensais profondément, du coup, au pire, ça passe pas, mais il y a plus de ah bon, bah cette blague elle marche pas.
Ouais.
Tu vois,
si tu dois répondre, si
non,
c'est
non,
une urgence.
Non, tout va bien.
Et
donc, du coup, c'est ça qu'il y a d'agréable, c'est quand tu racontes des choses que tu penses et que je pense que c'est ça le stand-up d'aujourd'hui. Je suis pas un expert du stand-up, mais en gros, quand tu reprends, il y a... Ah putain, attends.
Non, mais vas-y, il n'y a aucun souci.
Allô, je suis en plein enregistrement, vous m'attendez pour couper ?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est pas un problème. Allez, à tout de suite. Non, tout va bien.
T'es attendu.
Mais tout va bien, tout va bien. Non, c'était ça ma fine analyse du stand-up français. Non, mais c'est qu'en gros, quand ça a démarré, quand c'est arrivé en France il y a une quinzaine d'années, avec le Jamel Comedy Club, il y avait cette vision, qui n'était pas totalement vraie, mais de, je ne sais pas si vous avez remarqué, et ça n'existe plus aujourd'hui, tu vois.
Ouais.
C'est...
Bah c'est très, en tout cas, ce qui est très actuel, c'est la rebondir très vite, comme le fait Haroun, et comme là le fait aussi vachement Dave Chappelle. Enfin, ce truc où j'ai l'impression que ce qui vient des États-Unis déteint ensuite en France, et on a envie de le faire. C'est la possibilité, en tout cas, de réagir comme ça sur ce qui. Et en plus, nous, là, quand même, cette dernière année. Politiquement et mondialement, ce qui se passe, c'est vrai que toi, dans ton spectacle et cette facilité que tu as à beaucoup produire, c'est très stand-up parce que c'est anti-théâtral, quoi, dans le sens positif, où le théâtre, c'est répéter 6 mois un truc qui a été écrit il y a 200 ans, et le stand-up, c'est ne pas répéter quelque chose qui a été écrit le matin même, quoi, presque.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Sur la forme, c'est pas vraiment stand-up parce que j'arrive en smoking et que j'ai pas de micro-main, parce que ça, j'ai l'impression que. Il y a vraiment des puristes du stand-up pour qui c'est ça, mais après.
Oui, c'est vrai, toi, t'es microté.
J'ai un micro-casque.
Ouais. Oui, micro. ça fait plus one man, c'est vrai. Non, il y a un petit côté.
Il y a plus cette image de one man, mais après, tu regardes Guy Bedos, s'il avait un micro-cravate, Florence Foresti, elle a un micro-casque, enfin, tu vois. Et
mais
j'ai
d'ailleurs,
pas...
c'était plus one woman. C'était.
Ouais, son premier, parce qu'il y avait des sketchs et des persos, mais les 3 derniers, non, t'as pas ce. Enfin, pour moi, c'est une fausse case. C'est une fausse case. C'est soit en gros, oui, t'es dans un truc où il n'y a pas de quatrième mur et tu t'adresses aux gens directement, soit tu fais des personnages et là, il y a ce quatrième mur qui est. Non, je sais pas, dis-moi.
Non, mais de toute façon, après, c'est très large. C'est vrai que chacun a sa chapelle du stand-up où. Moi, j'ai l'impression que ce que fait Blanche Gardin, c'est très. C'est très stand-up parce que c'est beaucoup du jeu et que J-E. Mais moi, il y a des gens qui sont sortis de mon spectacle, alors que moi j'ai un pied à un micro et que l'inspiration était Blanche Gardin, des gens qui m'ont dit mais non, tu fais du seul en scène et puis tu joues et tu prends des voix, etc., même sans faire des personnages. Et que vu l'énergie parfois que je déploie, et bah donc ça serait pas stand-up, mais au final c'est. C'est pas voilà l'ouverture est large entre mais c'est vrai que la différence peut-être le one woman show c'est vraiment quand tu joues un personnage et que c'est plus à la première personne quoi peut-être
ouais.
C'est la petite distinction hein.
Ouais mais
après toi c'est vraiment à part ce que tu fais, il y a quand même quelque chose de très c'est très personnel comme tu dis, mais c'est vraiment chronique, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on te voit bien. Moi, ce que je trouvais joli dans ton spectacle, c'est qu'on voit, je sais pas, il y a quelque chose de très enfantin et on sent que tu t'amuses et que c'est ce que tu dis au départ, c'est que tu dis que t'as toujours aimé ces cérémonies. Moi aussi, j'adore les Oscars, j'adore les cérémonies, ça c'est. J'adore voir les cérémonies, je chiale à chaque fois, les discours me font pleurer et tout.
Ah oui ?
Mais je regarde pas les cérémonies françaises, tu vois, j'adore les Oscars, j'adore les BAFTA, j'adore les Emmy Awards, j'adore
Golden Globes.
Ouais, Golden Globes, de toute façon, la culture. Entre guillemets populaire que je consomme, ce n'est que de la culture américaine. Mais, et je trouve qu'ils savent faire des speeches et des cérémonies. Et pour moi, le plus discours d'anthologie de Ricky Gervais au Golden Globe, c'est le chef-d'œuvre absolu de tous les discours de l'histoire de l'humanité des discours. Mais, et en même temps, c'est génial. Il a, je sais pas, il est la personne au 20e ou 21e siècle, c'est plus, mais qui a vraiment défoncé Hollywood. Je sais pas si quelqu'un a mieux défoncé Hollywood que Ricky Gervais. Peut-être Sacha Baron Cohen. Et quoique, je sais pas si c'est vrai, si c'est vraiment pris à Hollywood, pas particulièrement. Mais
mais c'est ça qu'il y a de la différence, c'est que il en a fait combien des Golden Globes, au moins 3 ou 4.
Ouais.
En fait, on le réinvitait.
Et oui, complètement. Ils étaient en demande, mais c'est magnifique. Et tu voyais les gens dans le parterre qui ont peur, et lui qui ose, et que ça excite. Et ça, c'est moi, j'adore. Je trouve ça très marrant. C'est du stand-up, et puis je trouve que c'est enfin lui il est extrêmement fort et donc on sent dans ton spectacle que voilà il y a un truc où c'est comme si tu mettais tous les jeux pour et ça permet de si on aime tes chroniques à la radio et tes vidéos on retrouve vraiment l'esprit dans le spectacle tu vois,
cool.
Y a pas ça c'est
ça,
vraiment
c'était
trop
la volonté
bien.
C'était le truc le plus dur, c'est pour ça qu'en gros le premier spectacle Que j'ai pas joué très très longtemps, mais je le faisais au début où j'étais chez Ardisson, mais j'en étais pas très content, et c'était pas raccord avec ce que je faisais, soit en radio, soit chez Ardisson. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré arrêter, me laisser le temps de mûrir mon humour sur scène, et de revenir, ce qui veut, enfin, j'étais pas attendu, mais en tout cas d'y retourner quand j'aurais mûri ce truc là c'est pour ça que j'ai attendu 2-3 ans. Je continue à faire des plateaux, des premières parties, mais donc sur le plan marketing et pécunier, c'était débile parce que je sentais qu'à la fin il y avait de plus en plus de gens qui venaient grâce à Ardisson, mais je sentais qu'ils retrouvaient pas ce qu'ils voyaient, etc. Donc c'est pour ça que j'avais, mais pour moi les gens globalement ils viennent une fois à ton spectacle, point barre. S'ils sont sur fans et fous, ils viennent 2-3 fois, mais c'est 2%, enfin je sais pas, ça doit être très très rare. Donc t'as qu'une chance de les séduire et de leur plaire. Donc j'avais pas envie de les décevoir. Donc c'est pour ça que...
Et en tant qu'acteur, parce que t'étais dans Munch aussi.
Tout à fait.
J'avais passé le casting il y a longtemps pour le rôle de...
Pour le rôle de qui?
Bah, de la super belle meuf. Et puis quand j'ai pas été prise, ils m'ont dit en fait on cherche une vraie beauté. Genre, pas quelqu'un
ils
avec...
Ils ont dit ça?
Ouais.
Le directeur de casting, il t'a dit ça?
Ouais, oh, bah, tu sais, moi, j'ai entendu ça pendant 10 ans en tant que comédienne, et c'est pour ça que mes premiers sets de stand-up, c'était... comme je suis moche et en surpoids, la vie est difficile. Et puis, genre, ça fait depuis 3 ans que je fais du stand-up que, genre, en fait, on m'a dit ah, non, mais je t'assure, t'es jolie. Mais en tant que comédienne, on m'avait tellement dit tu peux jouer. Mais moi, on m'a fait passer des castings où je recevais la meilleure amie en surpoids, pas physique difficile.
Mais t'es pas en surpoids, pardon.
Bah, mais... Pour une comédienne, si tu fais pas un 34-36, à partir du moment où t'es dans du 38-40, t'es en léger surpoids en France. Je t'assure, à l'image, les gens sont là, enfin, ça crée des problèmes, quoi. Puis même dans les castings que tu reçois, quoi. Je me souviens, il y avait c'était violent, quoi. J'ai passé un casting, un truc qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Girls with Balls, sur des nanas qui sont...
Avec Artus.
Ouais, je crois, et qui butent des mecs. Et il y avait un rôle, donc c'était que des nanas plutôt sexy et marrantes et dynamiques. Il y avait un rôle où c'était écrit dans le descriptif... pas gâté par la vie, à des boutons ou des lunettes ou un vrai problème de poids. En tout cas, elle manque de confiance en elle, bah forcément parce que la vie ne l'a pas gâtée. Mais elle va trouver à travers le film envie de se faire des amis. Et quand je suis allée au casting pour ce rôle, et il y avait toutes les filles autour de moi qui étaient toutes très 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 minces, et j'étais là, et en effet. Et je me souviens, après au callback, on était toutes en plus dans une espèce de jogging, et ils me regardaient, les gars, ils me disaient « Ouais, donc toi, il me disait Rosa, c'est sûr, t'es pas mince, après, t'es pas grosse », et ça s'est passé comme ça. Ils disaient « Non, parce que là, au niveau... » Ils disaient « En fait, non, au niveau du ventre, t'as un ventre plat, mais après, t'es grosse... » Oui, si, c'est peut-être... faudra filmer tes cuisses, quoi. Donc, c'était chirurgical, et je suis sortie de là en me disant... Bon, bah, Rosa, il va falloir en fait que tu aies l'extrême lucidité de savoir ce que tu es en tant que comédienne, et apparemment, c'est une fille. Mais c'était. Et donc.
C'est violent, non?
Ouais, c'était hyper. Ah, bah, c'était complètement violent, mais. Non, c'était. Ça m'a fait.
C'est violent.
Ouais, ouais. Mais toi, le métier d'acteur, tu trouves pas que c'est extrêmement violent? Tu continues à passer des castings, guys?
De temps en temps, si il est violent. En fait, les castings, c'est très violent, mais j'ai fait un petit programme court qui s'appelle Sans mensonge il y a 3-4 ans, et en fait, on a vraiment tout fait nous-mêmes, et je suis passé, entre guillemets, de l'autre côté, et j'ai fait passer des castings à des gens, et ça m'a énormément détendu sur moi après, quand j'ai passé des castings, parce que ma vision, en tout cas, de quand je fais passer des castings à des gens... C'est en fait, mais c'est comme dans les speed dating, en une minute, tu sais si ça va le faire ou pas, en fait. Et parce que l'attitude, le truc où tu rentres, après, parce que moi j'étais là, après je sais pas si ça se voit en cassette, tu vois, mais pour moi t'as la réponse, tu sais si ça va être la bonne personne ou en tout cas pas la bonne personne très très vite. Donc ça m'a détendu, et puis c'est en fait l'image que se fait le réalisateur, etc., du personnage. Donc en fait, si c'est pas moi, c'est que c'est pas moi que j'ai pas été bon au casting, c'est que je suis pas dans sa vision du truc. Donc ça m'a vraiment détendu là-dessus. Mais après, au début, les castings, c'est violent, hein. C'est de l'abattage, hein. T'arrives, tu sens qu'ils ont 10 minutes par personne maximum, et allez, bon, merci beaucoup, on tient au courant.
Mais c'était pas ton rêve de départ de devenir acteur? Toi, tu voulais plus devenir, comment dire, presque plutôt Antoine de Caunes que Vincent Cassel?
Alors j'ai pas le choix. Non, Antoine de Caunes, il a fait pas mal de cinéma.
Ouais.
Non, c'est vrai qu'au début, la télé, c'était vraiment un truc qui m'excitait. Mais j'adore la fiction, parce que pour avoir fait pas mal de télé, il y a un truc qui est frustrant, surtout quand tu fais des chroniques, des choses comme ça, des émissions. Globalement, ça ne reste pas. Tu vois, tu fournis une sorte de toboggan de flux, qui est super, mais qui... un
très
film,
éphémère.
Ça reste, quoi. Ouais. Tu vois, un film, un album, ça reste... Une chronique, tu vois, de qu'est-ce qui reste de mes 200 chroniques chez Ardisson ? Pas grand-chose, si ce n'est rien, et peut-être 3-4, quoi, tu vois, et, dont Robert Ménard dans ces trucs-là. Mais celle du samedi 19 octobre 2017, déjà, je sais moi-même plus qui y avait en face de moi, enfin, tu vois, c'est tout.
Et tu veux pas écrire de la fiction, ça t'intéresserait pas ?
Si, mais c'est très long, c'est très long, c'est un processus qui est long. Et c'est vrai que j'aime bien les trucs qui se font aussi rapidement.
Ouais,
c'est pour ça que j'aime bien les réseaux sociaux.
Mais
si, la fiction, ça m'excite. Après, moi, ce qui me rend fou, c'est quand je vois certains films et je me dis, putain...
C'est de la daube.
Et en même temps, tu te dis, putain, le mec, il a passé un an et demi de sa vie.
Non, minimum, tu rigoles, 5 ans, c'est pour développer un projet.
Entre la V1 et celle du tournage qui doit être la version 38, et tu fais, mais ça, c'est la version 38. Moi, je serais tellement curieux de lire les V1 de certains films que je trouve nuls,
ouais.
Tu vois, pour voir ce que c'était à l'origine. Mais... Donc si, non mais la fiction, j'adore ça. Non, moi, acteur, comédien, moi, je trouve ça rigolo, parce que comparé à tout ce que je fais à côté, j'ai moins l'impression que c'est du travail.
Ouais.
On me dit, bah tiens, voilà.
Tu mets pas l'enjeu. C'est quoi la chose sur laquelle tu le mets le plus d'enjeu ou de désir, ou qu'est-ce qui serait pour toi, genre, vraiment la réussite absolue? Enfin, c'était quoi ton ambition la plus grande?
De ma vie,
ouais, de ces prochaines années, ce que tu dis vraiment là, dans de 30 à 40, ce que tu aimerais accomplir.
Oh, là, vraiment, la fiction. La fiction, c'est vraiment un truc que j'aime, que j'ai envie de faire, parce que même si ça va vite, on a quand même le temps, quoi. Tu vois, t'as fait de la fiction aussi. Il faut au cinéma, tu sors 2-3 minutes utiles par jour du film. Bon, sur les séries, c'est plus entre 7 et 9 minutes. Mais tu vois, t'as un petit peu plus le temps de faire les choses. Mais bizarrement, sur les tournages de Moon, c'était ça qui était parfois frustrant. C'est que parallèlement à ça, je continuais quand même la télé chez Ardisson ou la radio. Ouais. Donc si je suis de la première scène, pas de la deuxième, et que je suis de la troisième, en gros, l'heure et demie qui passait à faire la deuxième scène, j'étais moi dans ma loge sur l'ordi en train d'écrire les chroniques du lendemain et tout. Donc c'est pour ça que j'ai un peu levé le pied sur certains trucs, pour avoir un tout petit peu plus le temps de kiffer le tournage, et voilà.
Et pour revenir au tout début de... Après, il faut que je te laisse à ta vie. Au tout début de l'enregistrement, tu me demandais si pour les hommes, si j'étais sur les applis, etc. Mais toi, tu... Et puis je t'ai répondu que non, moi, je pouvais pas... quelqu'un a priori. Toi, c'est quoi avec les filles, justement? Est-ce que tu as eu l'expérience des applis?
Oui.
D'accord, et ça s'est bien passé?
Oui, non, mais globalement...
Ta copine, tu l'as rencontrée sur une appli?
Non, je l'ai rencontrée sur Instagram.
Allez.
Non.
C'est un peu la classe.
Non, mais parce qu'on a un pote en
commun...
Entre
gens certifiés.
Bah non, pourquoi? Elle n'est pas certifiée.
Ah, d'accord. Toi, tu l'es, non?
Oui.
Ouais.
Allez.
Ça aide.
Non, mais on a un
copain... C'est la nouvelle grosse bite.
C'est ça. Ah ouais?
Aujourd'hui, d'être certifié. Bah, c'est un atout, quand même.
Je sais pas.
Pour une nana, en tout cas, quand t'es une meuf et que tu reçois pas mal de DM, tu vas avoir peut-être tendance à regarder plus en détail ceux qui sont de personnes certifiées que
non,
ceux
ça,
qui sont
je veux bien le croire.
Sans photo, etc.
Mais moi, ce que j'aime chez ma copine, c'est que elle ne me connaissait pas.
D'accord.
Et elle connaît globalement pas les gens. Enfin, elle a pas un truc d'immédiateté et de people et de stars et de Pour te dire totalement la vérité, hier, quand je lui dis, bah tiens, c'est demain qu'on fait le podcast avec Rosa et tout, je lui cite deux, trois noms, donc, et de qui ont fait le truc, je connais pas, et puis je fais, bah si, je sais pas si on peut le dire, celui que tu m'as raconté qui doit déjà être sorti.
Ah oui, il sera déjà sorti en effet. Oui, c'est vrai, comme toi, tu sors en 2021, oui, il sera sorti.
Moi, je suis dans le futur, on est en 2021. Alors qu'on enregistre en 2017, hein, non, mais voilà, je lui dis, bah tiens, et c'est drôle, elle a eu John Malkovich, fait qui? Et.
Non, elle connaissait John Malkovich quand même.
Oui, mais enfin, mais ah, après, je lui ai tapé Google, oui, et elle fait « Ah, mais oui, bien sûr !» Mais si tu veux, elle n'est pas dans un truc
ouais,
de...
Et Ta copine, elle n'est pas dans le biz.
Ah non, non, pas du... Enfin,
comment, comment vous êtes rencontrés sur Instagram si c'est hors du...
C'est-à-dire, parce qu'en fait, elle est l'agent mannequin et elle-même pose un petit peu.
Ok, d'accord.
Et le truc, c'est qu'on avait
vu sa photo
sur un profil d'un copain en commun qui s'appelle Pierre Gab, qui est photographe.
T'es allé lui parler.
Et du coup, j'ai parlé à mon pote. Je lui ai fait, tiens, est-ce qu'il est célibataire, machin. Il me fait, ouais, je crois, mais tente ta chance, démerde-toi. Puis il y a eu un salut, ça va. Puis on a discuté, puis voilà. On s'est vu.
D'accord. Donc le physique, a priori, tu es sensible au physique des femmes. Tu trouves ça, la beauté, c'est quelque chose qui active quelque chose en face chez toi.
Bon, bah, on est tous, sensibles.
Non, mais je te taquine.
Ouais, on est tous... Non, mais si on peut en parler
mais
3 minutes.
Mais pas du tout, c'est très honnête. Mais
ah oui, non, mais enfin... Non, après...
Mais je trouve ça super, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est trop facile. Enfin, je suis un peu jalouse de genre, la sexualité des hommes. Je trouve que c'est génial pour vous, en fait. Vous trouvez... Vous avez...
Mais non, mais après, c'est une question de goût.
Ensuite, il faut que ça matche, bien sûr.
Non, mais c'est ça. Non, mais ouais. Tu vois, moi, des fois, tu sur les applis de... rencontre où j'ai pu rencontrer des filles que j'avais vues en photo, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Oui, pour moi, il y a une question de physique, mais pas forcément de trucs ultimes, enfin, tu vois, dans la quête du mannequin perpétuel. Mais évidemment qu'il y a un truc de physique au début, enfin, tu vois, demain, t'as Michel Galabru qui vient, s'il était encore en vie, taper à ta porte quand il joue Cruchot dans Les Gendarmes. Tu dis pas, putain, c'est cool, tu vois.
Moi, j'ai été avec des mecs d'une laideur extraordinaire. Hein.
Ah bon ?
Ouais. Moi, c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas de... Non, moi, j'ai été avec des gars, comme je le dis dans le poème, hein, gros, gras, cheveux dégoûtants, dents pétées, c'est pas... S'il y a un truc, si je l'ai vu sur scène et qu'en fait, il m'a incroyablement impressionné dans ce rôle...
Mais c'est, ça, c'est là où, du coup, ce truc est tronqué. Mais juste pour finir, c'est que du coup, oui, pour moi, il y a... et ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas un truc de physique. Après, pour avoir rencontré des filles, des fois, sur des applis de rencontre, au moment où tu les rencontres, tu fais, bon, il se passe rien du tout.
Ouais.
Et ça, par contre, pour moi, c'est... comment dire... Enfin, c'est clair, il n'y a pas de débat. Si on n'a rien à se dire, si elle est bête ou, à mon sens, bête ou pas intéressante, ou bah, oh, là, ça casse tout. Et tu peux être la plus belle du monde si tu es teubé ou que tu dis des trucs fous. Ben non.
Ouais.
Ah non. Pour moi, justement, une relation, c'est ça. C'est pas que le physique, c'est de qu'on rigole, qu'on ait des trucs à se dire, qu'on ait de...
Et celle avant avec la chatte, celle...
L'animal, hein. Oui.
Elle était belle et intelligente, j'imagine, aussi.
Oui, bien sûr.
Et pourquoi ça n'a pas marché?
Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que caractère... pas évident.
Okay.
Et que, ouais, nos deux caractères... Bon, c'était une casse-couille, hein, on peut se dire. Hein.
Ouais.
Enfin, non, à mon sens, c'était... Non, mais parce que faut faire gaffe à ce qu'on dit, ça veut rien dire. C'est... Mais pour moi, elle m'a cassé les couilles, en tout cas. Et que ça, c'est quand une relation...
Moi, ça, c'est un truc que je me dis, genre, en vrai, de vrai, genre, je tiens des discours super féministes, mais tant que je suis célibataire, du moment où je suis maquée, mais je vais tellement en mode grosse soumise, j'aurais tellement peur si je kiffais un mec de lui casser les couilles. Déjà, là, cela dit, le mec...
Mais il faut rester le plus naturel possible, tu vois.
Bah, moi, si je suis naturelle, je suis une grosse casse-couille, mais devant l'éternel, quoi. Je pense qu'à moins de vraiment tomber sur un mec qui aime les casse-couilles, c'est-à-dire que... Je sais pas comment... Même
Mais c'est pas un truc d'aimer les... C'est d'aimer
Non, mais il y a des gens qui sont
cool.
Il y a des gens qui sont cool. C'est pas mon cas. Je vois, genre, ta copine mannequin. Je suis sûre, je vois très bien l'idéal de meuf très cool, très légère, très... Genre, non, mais allonge-toi sur... Non, mais il n'y a pas de serviette, il n'y a pas besoin de serviette. Genre, déjà, le mec avec qui je suis en bise-bise, il m'a envoyé un message en mode, oui, t'es le genre de personne avec qui je nous verrais bien prendre un sac à dos et traverser la France. Et j'étais genre, oh, il ne me connaît pas.
Il me faut un 4 étoiles minimum, non, une douche italienne.
Moi, je ne voyage pas sans une énorme valise, j'aime pas barouder, justement, je suis sédentaire, genre, j'ai besoin qu'on soit... Enfin, tu
mais
vois,
peut-être qu'avec lui, tu aimeras barouder.
Non, c'est impossible. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si c'est, je barouderais pas. C'est pas ma vision. Enfin, genre moi, je suis comme Solal dans Belle du Seigneur, tu sais, d'Albert Cohen. Tu vois, aérienne. J'ai besoin de 2 heures de préparation dans ma salle de bain. C'est ça ma vision du romantisme. En fait, j'ai besoin qu'on se retrouve au restaurant et d'arriver avec ma plus jolie robe. Et enfin, tu vois, j'ai absolument pas aucun fantasme de camping, quoi. Et si ça, c'est ton délire, tu trouveras cette meuf, genre, naturellement belle et wouhou. Enfin, ça, c'est pas mon cas, quoi. Mais c'est compliqué.
On a son petit confort, ça.
Ouais, j'ai mon petit confort, j'ai mon petit côté vieille, c'est pour ça. Mais non, mais après, bon, tu te forces. Mais c'est je vois ce que tu veux dire sur le côté... Vos caractères ne matchaient pas, quoi. Et toi, t'es facile, j'imagine, en plus, au quotidien. T'es pas trop needy?
C'est quoi, needy?
Genre, est-ce que t'as besoin d'avoir des petits messages, des petits... Est-ce qu'elle te complimente, qu'elle te fasse sentir bien? Ou est-ce que t'as besoin de quelqu'un...
Bah, comme tout le monde, ouais, je pense. Ouais. Non,
mais au quotidien, genre, est-ce que t'as besoin qu'elle te dise que t'es beau, qu'elle te flatte, qu'elle te trouve fort, que ton spectacle est incroyable?
Bah oui et non. Non, d'un côté, je pense que dans le couple, c'est toujours important d'avoir des petites attentions. Après, non, c'est ça qu'il y a de cool, c'est que... Elle, c'est pas une groupie, c'est pas une... Et c'est ça qui a de chouette, quoi. C'est que justement...
Tu t'es jamais fait une phase où tu t'es tapé plein de groupies, mais histoire d'enquiller un peu entre deux relations...
Non, j'ai pas... Non.
Bah, c'est bien, c'est ça.
Bah, je sais pas, mais...
Bah, c'est y a deux types d'humoristes, hein. Il y a les humoristes maqués et les humoristes qui se tapent des groupies. En vrai, c'est les deux formes d'humoristes que rends.
Ouais. C'est binaire, quoi.
Ah, c'est binaire.
Ah, d'accord.
Bah, oui. Parce que je pense que quand tu rentres dans le void de taper des groupies et que ça te plaît, ensuite, tu vas pas t'arrêter un jour et dire « Ah non, en fait, j'aime le couple, quoi. » C'est l'un ou l'autre, je sais pas.
Peut-être un truc d'âge ou de... Je sais pas. Mm. Ouais, j'ai pas la réponse.
C'est bien, mais c'est que tu mets l'enjeu narcissique ailleurs que dans la groupie, ce qui c'est cool.
Bah ouais, moi je trouve ça plus intéressant de quand c'est pas facile aussi, quoi, tu vois, non?
C'est quoi l'acte le plus romantique que t'aies fait?
L'acte le plus romantique que j'ai fait.
Ah, j'ai fait un cunis hier.
Voilà. Donc déjà c'est pas immédiat, c'est bien. Putain, bah voilà, super. Une autre question? Qu'est-ce qui...
Bah, peut-être tu te rattraperas pour... T'as envie de te marier ou pas d'ailleurs?
Ouais, mais on va se marier.
Ah! Et bah ta demande, ça a pas été quelque chose d'un peu... T'as pas mis... Non? T'as pas fait péter le décorum?
Non, c'était... Il y avait un truc un peu de surprise et de... Moi-même, je me suis surpris à... Putain, bah tiens, bah, ça va être maintenant et c'est bizarre et de... Tu vois? De... Non, dans les... Enfin, je sais pas si c'est... Non, c'est pas... Je te dis pas que c'est l'acte le plus romantique, mais... Dans les trucs rigolos, c'était pour notre premier Noël. Je savais ce que je voulais lui acheter, en même temps, je savais pas précisément quoi. Donc, je pense que je lui ai fait un kiff de meuf, ou en tout cas de certaines meufs. Je suis passé la chercher au boulot, en scout, et on s'est arrêté dans une boutique de grande marque de sac à main. Et je lui avais fait croire, non, mais je dois acheter un truc et tout, on s'arrête là. Il fait, bah tu vois la boutique? Il fait, ouais, et bah on va rentrer dedans et tu prends le sac que tu veux, quoi.
Oh.
Et ah bon, ouais, machin, donc du coup, voilà. Je pense, en fait, d'un côté, j'aurais préféré, et vu que j'avais pas exactement le modèle, enfin, j'avais le modèle, mais il y a tellement de combinaisons et tout, que j'avais en fait, moi j'aime bien dans les cadeaux que les gens aient exactement ce qu'ils avaient en tête. J'ai parfois été trop déçu.
Tu fais pas de surprise sur des bijoux, des colliers, des...
Bah sauf si je connais exactement le modèle, mais là typiquement sur un sac à main, tu peux te retrouver avec ah merde, mais en fait dans cette matière là qui est la même couleur, mais c'est, ça rend pas le même truc. Je sais pas si tu vois où,
ouais.
La chaîne elle est en métal mais en couleur or, enfin tu vois, donc du coup j'avais envie qu'elle ait exactement ce qu'elle vous l'avez en tête, tout simplement. Donc voilà, je sais pas si c'est extrêmement romantique, mais il y a un truc un peu rigolo de film américain et de et je pense
et de premier Noël passé ensemble
et de premier Noël et de voilà. Donc ça m'a coûté une couillasse.
Oh putain.
Voilà. Donc merci Chanel et voilà. Donc,
mais après le romantisme ça peut être des trucs tout bêtes hein. Ça peut être des moments, j'en sais rien, ça peut être voilà, justement des petits moments à deux ou je sais pas, ou un esprit, une lumière hein, tu vois, quand je disais dans, justement une vue, la Grèce, un voyage, ça peut être un voyage, un moment. Alors, en ce moment on peut plus trop voyager, mais ça ben peut oui. être ça peut être, tu vois, même la Bretagne, hein, ça peut être pornique, hein, le romantisme aussi.
oui, oui, mais bien sûr. Non, si pour elle, j'ai enfin vu Dirty Dancing.
Oh, ça c'est chou.
Voilà. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, hein, franchement. Non, mais...
Oh si, t'as pas, tu vois pas l'attrait incroyable des meufs pour Dirty Dancing ?
Mais je ne comprends pas cette passion.
Tu comprends pas ? Bah alors, moi, je m'identifie totalement à la meuf de Dirty Dancing parce que justement, c'est la nana un peu avec ses parents, etc., dans le nid du machin qui sort pas de ses bouquins ou de ses trucs et qui arrive dans justement ce truc de juif en plus, plus ou moins. Et c'est le danseur, quoi. Patrick Swayze, là, c'est l'anti. C'est en fait, c'est tombé amoureux de la sensualité. Là, c'est en fait.
C'est l'aventure, quoi.
Ouais,
c'est la bamboche.
En fait, c'est la bamboche. C'est le mec qui te va faire oublier ta tête. C'est le mec qui va te faire découvrir ton corps.
D'accord. Mais non, mais je...
Voilà. Et il danse bien. Et puis il l'a fait voler, il la prend dans ses bras.
Et le plus drôle, tu connais cette histoire sur le tournage du film, c'est qu'il ne pouvait pas se piffrer.
Ouais, paraît-il. Ça, c'est horrible, ça me brise le cœur. Mais ça m'étonne pas parce que je pense que elle devait être peut-être un peu casse-couille elle aussi. Après, je crois qu'elle s'est fait blacklister, la prof, elle a jamais tourné.
Ouais, on peut pas
non,
dire.
Non, en fait, elle s'est fait refaire le nez et figure-toi que c'est avec. Il me semble que c'est ça qui fait qu'elle a jamais. Après, c'est Hollywood de l'époque. Hein. Ça se trouve, casse-couille à l'époque pour Hollywood, c'était est-ce que je peux être payé $1 de plus et... Bon, attends, je te pose des petites questions.
Vas-y.
Vraiment, je te laisse filer parce qu'il faut vraiment que tu y ailles.
Il y a des questions en rafale ?
Non, oui, voilà, des petites questions en rafale, du questionnaire de Proust, très vite, comme ça. Voilà, et puis, la qualité que tu préfères chez un homme ?
Gentil.
Parce qu'on a perdu 20 minutes quand je t'ai posé la question de l'acte le plus romantique que t'aies fait de ta vie. C'est
ah oui, oh putain, très bien.
À la bourre. La qualité que tu préfères chez une femme ?
Gentille. Oh. Ah bon, la gentillesse, c'est un truc qui m'apporte énormément.
Ouais. Le principal trait de ton caractère ?
Gentil. J'espère, gentil.
Oui, complètement. Okay. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Gentil, évidemment.
Ton principal défaut ?
Gentil.
Tu veux dire que tu peux être bonne poids ?
Ouais, ouais, ça a pu m'arriver.
Une idée du bonheur ?
Mon idée du bonheur, de faire exactement ce qu'on a envie de faire, et pas par contrainte, et pas pour faire plaisir à d'autres, voilà, d'être bien dans ses pompes, je sais pas si je suis très clair, mais
si,
voilà. Pour moi, c'est ça le bonheur, c'est de faire ce que tu as envie de faire et de pas faire des choses pour par contrainte ou pour faire bonne figure, pour paraître ceci ou cela.
Où aimerais-tu vivre ?
J'aime bien Paris et la Corse, c'est génial.
Ah putain, la Corse. La Corse, c'est romantique, la Corse, c'est sublimissime. Où en Corse ?
C'est vrai que là, depuis 2-3 ans, je vais régulièrement du côté de Porto Vecchio, que c'est magnifique, que Palombadge et tout. Après, tu pourrais me dire, bah tiens, t'as une maison au bord de la mer, n'importe où en Corse. Je vois, ok, cool.
Wow. J'ai fait Bastia. Si avec ta copine, vous mariez en Corse et que vous faites un gros mariage très chic et que vous invitez plein d'humoristes, invite-moi.
C'est vrai ?
Ah ouais.
Non, je crois qu'on va pas se marier en Corse.
Ouais.
C'est pas grave.
Ouais.
Parce que je ne suis pas corse.
Ouais. Oui, que c'est très...
Non. Et puis surtout aussi, pour moi, le mariage, faut qu'on fasse la fête, mais faut pas que ça soit une tannée pour les invités, tu vois.
Oui, de se déplacer. Non, c'est vrai que c'est chiant. Moi, j'ai une amie qui s'est mariée au Liban. Je lui fais, bah non, je vais pas claquer 5000 boules pour ton mariage. Voilà, donc, ouais, c'est clair. Ta couleur préférée?
Bleu.
Ta fleur préférée?
Les hortensias.
Ton repas préféré?
Tout ce qui est savoyard, tartiflette, raclette fondue.
Ouais. Tes prénoms préférés?
Michel et Didier.
Non.
Non, mais parce qu'il y a une, tu sais, il y a ce fameux truc souvent dans les sketchs, on dit Michel, ou du coup on a essayé de faire la variante avec Didier. Je trouve c'est des prénoms qui me font rire. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros retour sur certains prénoms, des Jean, des Louis, tu sais, qui étaient des prénoms très vieux, et aujourd'hui t'as plein de petits Jean et de petits Louis partout. Didier, avant que ça revienne, il y a quand même très peu de chance, quoi.
Comment aimerais-tu mourir?
Que ça fasse pas mal.
Ton état d'esprit actuel?
Très heureux d'avoir fait ce podcast.
Oh, merci Tom d'être venu. Enfin, est-ce qu'une devise, un mantra, une expression favorite?
Oui, c'est pas une très grande phrase, elle est un peu ballot, mais la vie ne mérite d'être vécue que si on la vit comme un rêve. Voilà.
Oh.
Donc... c'est ouais, d'essayer de réaliser ses rêves de petit garçon, de petite fille, et de pas avoir de regrets plus tard. Voilà. Donc, je sais pas, ça va pas chercher bien loin, mais...
Merci beaucoup, Tom.
Merci, Rosa.
Merci, c'est très beau. Ok les amis, j'avais envie de commencer cette outro avec la musique de la Mélodie du Bonheur. Est-ce que vous connaissez? Normalement oui. Attendez, je vous mets plus fort. Ne pas chanter. Ne pas chanter et vous dire ce que j'ai pensé de cet épisode. J'espère que j'ai bien aimé, j'ai adoré Tom Villa. Par contre, personnellement, je trouve que moi, je me répète un peu au début. Voilà, je vous ai raconté 50 fois, j'ai l'impression déjà, les circonstances de ma rencontre avec Adrienne, notre ex en commun. Mais cet épisode a été enregistré avant celui avec Adrienne et je crois que... ce podcast est très lié au livre que je suis en train d'écrire parce que je me rends compte de mon besoin de répéter inlassablement certaines histoires comme mon enfance, l'éducation que m'ont donné mes parents, l'absence de culture populaire, voilà. Tout ça, c'est des sujets dont je parlerai dans le livre certainement que je suis en train d'écrire. Voilà. Je ne sais pas encore à quoi ressemblera ce livre, hein. Je défriche énormément, mais je pense que le livre va faire de moi une meilleure podcasteuse parce que j'aurais tellement dit, révélé, mis le doigt, j'espère, sur le nœud de mon rapport aux hommes, à mon père et à mon métier de comédienne. Encore une fois, hein, le besoin d'en parler revient dans cet épisode avec Tom où je parle du poids, du fait qu'on m'appelait pour jouer des rôles de grosse. Et, ouais, et tout ça, bah, ça a énormément joué sur mon rapport à ma féminité et donc à ma sexualité. Et je crois qu'avec ce livre, je vais aller plus loin que le stand-up, que mes spectacles, parce que ça ne sera pas toujours marrant, en fait. Ça sera peut-être parfois glauque et en tout cas toujours très intime. Mais j'ai besoin de me débarrasser de ces questionnements pour ne pas transformer tous mes invités en thérapeutes, quoi. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, je vais continuer à mener un podcast de discussion, pas un podcast d'interview, mais j'aimerais avoir plus de réflexion au présent sur « Tiens, ah bah, je viens de lire ça, j'ai entendu ceci », et pas avoir à remuer les tréfonds des souvenirs de ces 10, 15, 20, 30 dernières années, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, laisser plus de place à la personne en face, quand même. En tout cas, merci d'être là, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas évidemment à me faire des retours et si vous avez aimé, à le dire sur Apple Podcast. D'ailleurs, je veux encore remercier un auditeur ou auditrice dont le pseudo est WYRGOOVCK. KR, quelqu'un qui protège très bien son identité, mais qui a laissé un message adorable, titre « J'adore 5 étoiles ». Je vous lis le message. « Merci pour votre franchise et votre empathie. J'ai beaucoup ri en découvrant votre spectacle, ce mélange de droit au but, d'apparente absence de peur et de vulnérabilité assumée. Je suis impressionnée et je voulais partager ce bonheur de la découverte. Je viendrai vous voir en 2050. » Waouh, bah ça me touche trop, en fait, pour vous dire la vérité. Quand j'écris le livre, je m'adresse souvent aux lecteurs et je pense à vous, les auditeurs du podcast. J'imagine vos réactions, vos rires, parfois votre désapprobation. Et vous êtes très présents dans ma tête et dans mon cœur. Et sur ce, bah, je vous dis à dans 2 semaines et pour un nouvel épisode des Mecs que je veux ken. Est-ce qu'on terminerait pas avec encore un petit morceau de la mélodie du bonheur? Ça vous dit? Je sais que vous pouvez pas répondre. Attendez, je vais en mettre un.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.